Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Alors messieurs, avant de commencer notre petite routine d'introduction, nous allons annoncer, faire une grande annonce, c'est que Fin du Game va passer en mode vacances pendant l'été. Alors on sera quand même là hein, pendant le mois de juillet et le mois d'août, mais il n'y aura pas deux épisodes, il y aura un seul épisode. Est-ce qu'on peut donner une date? Je pense que ce sera autour de mi-juillet pour le premier épisode, le deuxième sera autour de la mi-août. Mais voilà, on va ralentir un petit peu le rythme, ouais, ça va faire du bien.
L'année dernière, ça avait bien fonctionné au final, hein. Les gens étaient quand même contents qu'on propose au moins un épisode par mois. Et puis, bah, évidemment, à la rentrée, on vous prépare un programme incroyable qu'on teasera comme des fous à la dernière minute.
Exactement.
Voilà, parce que exceptionnellement, pour les gens qui sont sur le Discord, même si on a augmenté la quantité de jeux qu'on vous montre en avance, là, hop, pour la rentrée, secret, attention.
Bah, on Qu'est-ce termine qu'on la saison 2. On voilà. termine vraiment la saison 2. Les deux derniers épisodes seront en été. Voilà, vraiment ralentir un petit peu le rythme. Parce que c'est vrai que c'est ce que je disais aussi sur le Discord. Pour vous, bah, c'est vraiment un vendredi sur deux. Donc c'est un rythme qui est quand même assez doux. Mais nous, en fait, c'est constant. C'est-à-dire qu'il y a toutes les semaines, il y a toujours un truc Fin du Game. C'est soit une semaine d'enregistrement, soit une semaine de préparation. Donc pouvoir lever un petit peu le pied quand même pendant l'été, ça va faire du bien. Après, toute cette année écoulée, nous avons tenu le rythme malgré le Covid-19. Donc voilà, je pense qu'on a mérité.
Et les soucis techniques. Et les trucs et les machins, parce qu'on a enchaîné, on a eu quelques bonnes galères, mais voilà. Donc,
Clan Miami, on te salue.
Épisode enregistré trois fois, oui, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs comme ça. Mais vous pouvez toujours nous soutenir sur Patreon, ça c'est toujours possible. Bon, il n'y aura qu'un épisode par mois, donc évidemment, il n'y aura qu'un débit pendant l'été. Mais raison de plus, comme ça, voilà, on peut passer un bon été. Nous, on va partir à Cancun, des trucs comme ça, on va changer. Non, c'est évidemment pas vrai. Mais voilà, vous pouvez toujours nous soutenir sur Patreon. Encore une fois, là, on rentre dans la nouvelle phase où on va peut-être pouvoir aborder des sagas, des jeux un peu plus rétro, un peu plus anciens. Donc c'est vraiment grâce à vous qu'on peut faire ça, donc merci beaucoup. On remercie également Sœur d'édition, notre sponsor, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Et en ce moment, ils font que ça.
Et en ce moment, ils font que ça. Oh là là, toi, t'as surpris tout le monde.
Cassé.
Oh mon Dieu, les références. en ce moment, l'actu de Sœur d'édition, bah, c'est toujours les livres sur Rockstar. Ça y est, on peut annoncer qu'ils vont. Ils sortent déjà sur leur site en juin. Donc là, ce mois-ci, je pense que vous allez pouvoir les commander. Et puis, ils arriveront en juillet en librairie. Donc, le livre sur la saga Red Dead. N'oublions pas Red Dead Revolver. Hein. Les vrais savent hein, que ça a commencé avant.
Tu l'as pas déjà faite celle-là?
Peut-être entre nous.
On l'avait déjà faite.
J'espère qu'il posait la question. Est-ce que Redemption est un vrai Red Dead, tu vois? C'est les vraies bonnes questions.
Voilà, voilà, c'est des livres importants.
Ça, je pense que c'est vraiment l'angle d'attaque du mec sur le livre. Non, ce n'est pas du tout ça. Et puis, bah, y a aussi le livre sur la saga GTA, donc tous les épisodes. Donc, si vous aimez ces jeux, bah, vous pouvez vous lancer sur ces livres avant que nous, on le fasse dans l'émission. Ça arrivera. Je peux aussi, je le promets. Je le promets sur la tête de mes enfants. Je le dis, nous le ferons si nous sommes toujours vivants d'ici là. Et voilà, c'est tout. On a fait toute
c'est
la
bon,
routine.
Je pense
on
que tout le monde est super content.
Non, mais on se
Bonne
prépare
ambiance.
À tomber dans la folie. Hein. Voilà, je vous prépare un petit peu au jeu de l'épisode puisque cette fois-ci, on va parler de Far Cry 3. Maxime nous a sélectionné une musique pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce jeu. Et puis, on se retrouve juste après ça. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. So Far Cry 3, c'est sorti le 29 novembre 2012, c'est sorti sur PS3, sur 360, sur PC, c'est évidemment depuis ressorti sur PS4 et Xbox One via des versions remasterisées. C'est le troisième épisode de la série Far Cry, ça les plus malins l'auront déjà deviné. Mais par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'origine, Far Cry, ce n'est pas une licence d'Ubisoft, c'est une licence qui a été créée par Crytek.
En fait, c'est une licence Ubisoft dans le sens où c'est eux qui étaient éditeurs. Donc en gros, ils s'étaient associés avec ce petit studio allemand qui à l'époque n'était pas encore très connu, Crytek, pour réaliser comme ça un FPS qui allait mettre en avant leur futur moteur, donc le CryEngine, pour tout simplement avoir une espèce de réponse à l'Unreal Engine, qui prenait déjà beaucoup de place avec... Tu vois, il y a toujours eu la guerre des moteurs, le Source, l'Unreal, le Crytek, machin. Et donc, en gros, ils ont fait Far Cry en premier épisode, c'est Ubisoft qui l'a édité. En bon éditeur, il s'était dit, dans les contrats, on va noter que la licence, la propriété intellectuelle du nom Far Cry, ça nous appartient. Et du coup, pour Far Cry 2, dès le début, il y a eu en fait des petits soucis, puisque Crytek s'est séparé, ils n'avaient plus envie de retravailler avec Ubisoft et Ubisoft non plus. Donc ils ont fait Crysis, tout simplement, qui est forcément ressemble beaucoup à du Far Cry. Vraiment, tu sens qu'on est, on est toujours dans de la jungle, on est toujours dans du FPS.
La généalogie, elle est assez évidente. En vrai, Crysis, c'est un peu, entre guillemets, le vrai Far Cry 2. Hein. Quand tu regardes un peu des images, ils ont rajouté un petit peu cette couche de gameplay de, je sais pas, soldats robots, nanotechnologie, oui, machin, j'ai pas
combinaison suivi. Combinaison invisible, voilà, et pas tout joué, ça.
Ouais. Ouais, ils étaient partis dans ce délire-là, et du coup, Ubisoft a gardé la propriété de Far Cry. Ils ont fait Far Cry 2, qui est un épisode qui a pas forcément beaucoup convaincu les gens à l'époque, pour tout un tas de raisons.
Est-ce que vous saviez qu'il y a eu un film Far Cry, justement, qui accompagnait la sortie du 2?
Ça me dit quelque
chose.
Donc,
c'est un film allemand et qui a été réalisé par Uwe Boll,
spécialiste.
Il a gardé sa anecdote.
Je vous l'avais pas dit dans la première partie. Non, mais parce que, en fait, je l'ai découvert ce matin dans le bus. Donc, voilà, effectivement, il y a eu un film et qui est sorti quasiment en même temps que.
C'est ouf que ce type, il arrive encore à proposer des films, tu vois, parce que t'as l'impression que c'était juste une blague. Que tu vois, on ressortait sur le YouTube des années 2000, quoi. Uwe Boll, mais non,
il est toujours là. En tout cas, en 2008, voilà, c'était en 2008, donc il était encore dans sa période. Peut-être qu'il était pas complètement tricard dans le cinéma, je sais pas. Qu'il y avait des gens du jeu vidéo qui se disaient, ouais, ça peut être intéressant. Le mec, il a déjà fait des films sur les jeux vidéo, c'est une bonne idée de lui confier le projet.
En même temps, c'est quelle année? Alors, je sais que c'est pas lui, mais le film Resident Evil, tu vois, c'est que la qualité du film Far Cry, je suis pas sûr qu'elle soit très loin.
Ouais,
de la qualité du
c'était 2004-2005.
Je suis pas allé chercher bien plus loin, vraiment.
On ne parle pas de cinéma ici.
Mais non, voilà. On ne spoilera pas le Far Cry.
Mais le film Far Cry, tu vois, là, tu me l'apprends. Effectivement, je suis surpris.
Mais je t'ai coupé, du coup, Far Cry 2, oui, qui sort en 2008 et qui, cette fois-ci, a été vraiment développé par
Ubi, tout simplement. Ils ont revu complètement, pas la formule, mais en tout cas le lieu, puisque là, du coup, ça se déroulait en Afrique. Il y avait toute une histoire de malaria, puisque notre personnage, en fait, est atteint d'une maladie. Et il y a tout un aspect survie où tu dois en permanence gérer les conséquences de ta maladie. Et un truc qui est très particulier, c'est que tu ne joues pas, c'est pas unilatéral, tu jouais pas le gentil qui vient tuer les méchants, t'étais un mercenaire, donc ça c'est un truc dont on reparlera pour Far Cry 3. Tu étais en gros employé par les gens qui te donnaient de l'argent, donc tu pouvais d'un coup travailler pour des gens et le lendemain faire autre chose. Donc ça c'était assez intéressant et ça mettait vraiment en place ce côté open world, parce que le premier Far Cry n'était pas si ouvert que ça, on va dire. C'était pas encore complètement du full open world, et après ils se sont lancés évidemment avec Far Cry 3, et là c'est l'apothéose, puisque je pense que c'est à ce moment-là que la série a vraiment défini toutes ces règles, c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
Mais effectivement, il faut aussi, pour comprendre un peu Far Cry 3, il faut s'intéresser à où en est Ubisoft en 2012. Donc ils sont quand même vraiment au top, on se souvient de cette espèce de... Enfin, l'E3 2012, vraiment, Ubisoft à ce moment-là prenait vraiment de la place, et c'était pas pour rien, c'était grâce à une petite licence qui s'appelle Assassin's Creed. En 2012, on est déjà au troisième épisode sorti, donc c'est vraiment devenu... vraiment le monstre qu'on connaît, quoi. C'est vraiment la licence qui revenait chaque mois de novembre ou d'octobre.
Ouais,
c'est
là, on en était à un rythme annuel, je crois, parce qu'il y a eu le 1 en 2007, le 2 pour le coup c'était 2009.
Ouais, et après, il y avait 2 ans.
Je pense
après,
que c'était
tous les, tous les épisodes en fait qui ont suivi le succès d'Assassin's Creed 2. Il y avait eu Brotherhood, des révélations qui permettaient de faire, on va dire, le. le pont avec Assassin's Creed 3 quand il est arrivé, donc en 2012. C'est le moment où ils nous montrent Watch Dogs. Enfin, tu vois, ouais. C'est vraiment le 3 2012. Bon, c'est aussi le 3 des downgrades, hein, parce qu'il y avait tous les jeux qui nous ont montré qui finalement ne sont pas arrivés dans le même état. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est, on en parlait dans la préparation, c'est qu'Ubisoft, ils ont eu vraiment un regain de puissance énorme à ce moment-là, ouais. Parce qu'ils étaient présents depuis très
ils
longtemps.
Ils étaient déjà quand même forts, hein, sur la génération PS2.
Bah oui,
il y avait voilà, Prince of Persia,
Splinter Cell, toutes ces grosses licences, les Ghost Recon qui étaient déjà bien mal présents, tous les jeux en fait, Tom Clancy, hein, globalement, ouais. Qui ont fait leur identité pendant toutes ces années-là. Mais là, depuis Assassin's Creed, ils sont vraiment passés dans une nouvelle ère de leur évolution. Et là, ils sont passés en Super Saiyan 12, hein, parce que vraiment, ils ont mis en place cette industrialisation des jeux, ouais. Avec des sorties annuelles, etc. etc.
On l'avait dit dans un épisode où ils avaient gagné aussi le nombre d'employés.
Oui, oui, il y avait eu
5, genre.
En quelques années, ouais. C'était vraiment n'importe quoi. Je sais plus quand est-ce qu'on en avait parlé.
C'était l'épisode BioShock, en fait, on recontextualisait l'année 2007, qui
oui,
était du coup la sortie de
l'évolution.
Mais je crois que c'était depuis, tu vois.
Ça devient compliqué. Ouais, ouais, le lore de fin du game.
J'espère qu'il y a des gens sur Discord qui suivent tout ça à notre place, parce que sinon, nous, on est perdus.
Sinon, on peut citer aussi, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais il y a Just Dance,
ouais,
aussi.
Ouais.
2012, il y a le 4e opus qui sort, et en fait, les 4 premiers Just Dance, ils ont fait 25 millions de ventes.
À ce moment-là.
Ouais.
Donc c'est la moitié de The Witcher. Parce que du coup, ils ont annoncé qu'ils avaient fait 50 millions récemment.
Et c'est des jeux vendus plein pot.
Ouais, ouais, bien sûr. Et Just Dance, ça sort encore sur Wii. Je crois que le dernier épisode sort toujours sur la Wii.
À la maison. Donc,
ouais. Non, mais c'est parce que la Wii, ça
oui.
fait quand même
ah,
des
oui,
années.
Ah
que...
oui, ça sort encore sur Wii. Oui,
oui
pardon,
oui.
Excuse-moi.
Ça sort encore. Ça fait partie des jeux qui continuent de sortir sur des vieilles consoles parce qu'ils savent que bah, ça continue de se vendre. Et c'est vrai qu'on l'oublie, mais 2012, c'était la... on était sur la vraie fin de traîne de la violence de la sortie de la Wii, mais ça cartonnait encore de ouf. Quoi. Ils avaient les lapins crétins, c'est tout con, mais c'est
oui,
pareil,
aussi,
ça a
vrai.
Bien
ouais.
marché.
Ouais,
cette série-là, ça avait... Vu que la Wii avait touché tout un nouveau public, les lapins crétins Just Dance, Ubisoft, ils avaient un côté vachement plus familial, mainstream, qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Et à côté, ils avaient ce côté core gamer qui était ultra solide avec Assassin's Creed, avec principalement Assassin's Creed.
Oui, c'est vrai qu'on avait un peu cette ambivalence d'Ubisoft. Ouais, ouais. Hein, j'y avais pas forcément pensé, mais oui, ils étaient très core gamer et très, très familial à côté. Enfin, vraiment, ils bouffaient à tous les râteliers. Hein, ils étaient copains avec Nintendo.
Bon,
ils
après, ça a toujours été le cas, hein, parce que
oui,
les passions et
sûr.
Tout, c'était Ubisoft. Hein, on les a pas oubliés.
Mais voilà, ils avaient quand même. Des grosses vaches à lait et vraiment bah, l'objectif avec Far Cry c'était d'en créer une nouvelle hein, avec cette licence là et ils vont vraiment le passer dans leur matrice justement Assassin's Creed telle qu'ils ont réussi à la créer vraiment elle a réussi à aboutir vraiment avec le deuxième épisode parce que le 1 c'est pas fait de briquet de broc mais voilà c'était pas aussi mature que ça l'est devenu sur le 2 et après bah justement toutes les itérations là on est vraiment sur une formule qui est devenue très très solide et Far Cry c'était vraiment un moment de bascule je crois pour Ubisoft parce que c'était le moment où ils ont dit bah en fait on va pouvoir émuler cette formule avec d'autres licences et bah Far Cry 3 allait arriver et puis il y avait Watch Dogs aussi du coup qui aussi on pouvait percevoir que cette formule
c'est rigolo parce que c'était que le début de cette folie des open world qu'on a eu tout au long des années 2010. Et à l'époque, ben, c'était la promesse d'un vrai terrain de jeu gigantesque, etc. Enfin, de toute façon, toute la bande-annonce, toute la promotion autour de Far Cry 3, ça tournait autour de deux choses. Il y avait Vaas, le personnage, d'un côté, et de l'autre, tout le côté liberté, balade, la montagne à visiter, en voiture, en moto, à pied, n'importe quoi. Enfin, vraiment, toute cette promesse comme ça d'une énorme liberté, c'était vraiment le mot d'ordre, en fait, hein, je pense, de Ubisoft, mais de tout un tas de studios à l'époque.
Oui, parce que dans un FPS, c'était pas encore vu. Hein. Tu vois, open world, des FPS open world avant Far Cry 3, c'était Far Cry 2 ou c'était Stalker par exemple, mais c'est pas du tout la même vision de l'open world qu'on a aujourd'hui.
Même Crysis en fait était déjà assez. Il s'était déjà distancié parce qu'il y avait ce côté exploration qui était rendu plus plaisant avec la puissance de ta combinaison machin bidule, mais on n'était pas du tout dans cette structure très open world qu'on connaît tous aujourd'hui, hein, avec les hubs, avec les petites
activités
annexes, etc.
Ça, c'était vraiment la communication, hein. Je me souviens des trailers, alors c'était encore plus vrai pour le 4, mais où t'avais des longues présentations de jeu où te montrais tous les trucs que t'allais pouvoir faire dans le jeu.
Et ça avait commencé quelques années auparavant, tu vois, toute la communication autour de Crackdown, quand Microsoft l'avait annoncé pour la 360, ils avaient beaucoup insisté, donc c'est le premier jeu avec les succès, hein, pour l'anecdote, donc c'est un jeu où ils avaient fait des trailers exprès pour te montrer comment tu allais débloquer des succès, parce qu'à l'époque c'était nouveau, personne ne savait encore ce que c'était, et ils montraient toutes les activités annexes, parce que bah, c'était un jeu qui était censé concurrencer GTA, vu que c'était des anciens de Rockstar, et donc ils mettaient ça en avant, et c'est vrai que c'est, tu vois, petit à petit, entre 2006 à 2012, toutes les petites briques de ce qui allait devenir l'open world tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui sont en train de s'installer.
Oui, c'est vrai que ça commence à faire un moment maintenant que ça dure. Et du coup, bah, Far Cry 3, comme tu le dis, Maxime, voilà, c'est vraiment aussi le passage du FPS. Tu dis, il y avait déjà un petit peu des jeux comme ça, mais vraiment du FPS dans la formule Ubisoft. Et puis, on peut revenir aussi sur Vaas, hein, aussi, qui est vraiment un truc différenciant dès le début. Alors, le personnage, il n'avait pas été créé de base pour le jeu, il n'avait pas été écrit. Il a vraiment été écrit au moment de la rencontre avec Michael Mando, qui est donc l'acteur qui incarne Vaas, parce que bah, justement, en fait, pendant l'audition, il avait joué un personnage un peu lambda. Il l'avait joué d'une manière très particulière. Et en fait, ils ont beaucoup aimé son interprétation. Ils se sont dit, bon, bah, ok, on va essayer d'en faire quelque chose de spécial. Et ils ont vraiment capitalisé dessus parce qu'il y a eu énormément de communication autour de ça. Il y avait des espèces de mini-séries où tu voyais qui torturait un mec qui était enterré dans le sable là, avec des seaux, avec des bocaux.
Le mec qui est, j'oublie tout le temps, mais le mec qui joue McLovin dans Superbad.
Ouais.
Il est assez connu en vrai. Ouais. C'est un acteur assez connu. Il joue, je crois, peut-être dans un truc de super-héros un peu parodique, enfin bref.
Il était dans Kick-Ass.
Pensais à un autre, mais ouais, il est dans Kick-Ass.
Ah bah, il était peut-être aussi dans Mince Machin Contre le Monde, là.
Moi, je pense, il y a un truc vert, enfin, je sais pas. Green Hornet, où il y avait un dragon.
Bienvenue dans 2 heures de perdu, l'émission cinéma.
C'est pas le bon podcast pour les comic books, c'est vraiment
Scott Pilgrim versus peut-être bien.
Non, je crois pas qu'il soit...
Ah bon, il me semblait que c'était ce genre d'acteur, parce qu'il avait, tu sais, il a cette tête vraiment du nerd.
Oui.
Était vraiment mis en avant comme ça, et du coup il y avait la série. Et d'ailleurs, cette image du Vaas assis avec un type enterré, c'est devenu la jaquette.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, parce qu'on va revenir un peu en détail dessus, mais la raison pour laquelle on parle déjà de Vaas, c'est comme tu le disais, il était vraiment à l'E3 2011, il le montre, et c'est sur son monologue de la définition de la folie et tout, où il te fait ça, c'est vraiment lui qui introduit vraiment
l'univers la tonalité un
c'est
petit
ça,
peu
de Far Cry, et il est sur la jaquette, un truc qui est quand même assez, c'est pas incroyable, c'est pas révolutionnaire, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit pas souvent.
Bah, de mettre le méchant sur la jaquette, alors j'imagine que ça a déjà été fait, hein, je vais pas m'amuser à faire le grand archiviste.
Et évidemment, ça a été fait par
Diablo,
évidemment, voilà, bien sûr. Mais justement, Diablo, c'était un des seuls à faire ça, et ça reste encore un des très rares à l'avoir fait avec Hades, mais bon, c'est évidemment un hommage à Diablo, donc Supergiant savait ce qu'il faisait, mais Far Cry dessus, vraiment, ils se sont vraiment distingués, parce que d'habitude, on voyait que le héros. Mmh. Au contraire, toute l'imagerie de l'époque des années 2010, etc., c'était le héros, tu sais, avec les flingues montrées comme ça, le héros de Call of Duty, les silhouettes de Battlefield, etc. Donc jamais on ne mettait en avant l'antagoniste encore, donc c'était quand même vraiment différent.
L'arc et le costume moulant du mec de Crysis, je crois que tu vois de dos, de côté, enfin je sais pas, mais c'est vraiment l'image.
Bah, même, on se souvient par exemple que Bioshock Infinite, à la base, la jaquette ne devait comporter que Elisabeth, donc la femme, mais ils ont rajouté quand même un héros qui est complètement
pompe,
limite, on n'a jamais vu sa tronche dans le jeu, et ils l'ont quand même modélisé
Jean-Pierre,
pour justement
Jean-Pierre Video Games.
Jean-Pierre Video Games.
Jean-Michel, héros de jeux vidéo, mais c'est un peu Jason, hein,
oui,
parce que,
oui,
du coup,
c'est un peu
le personnage de Jason qu'on incarne, lui, il a été complètement mis de côté au profit de Vaas qui crève l'écran, parce qu'en plus, bon, alors ça, je l'ai appris pendant la préparation, mais l'acteur Michael Mando, c'est lui qui se double lui-même en français.
Oui, effectivement.
Puisqu'il est québécois.
Et, oui.
Voilà. Et voilà.
Et qui joue, du coup, dans la série Better Call Saul.
Mais oui,
que nous vous recommande, comme ça, à trois, vraiment en harmonie. Regardez Better Call Saul, c'est fantastique. Et notamment, justement, parce qu'il y a effectivement Michael Mando qui joue très très bien dedans. Le jeu sort, le jeu est à la fois déjà une réussite commerciale, hein, ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on avait regardé les chiffres? Je crois qu'il avait dépassé les 10 millions aussi.
Ouais,
hein,
deux ans après sa sortie, il était déjà à 10 millions de ventes.
Donc gros succès. Ouais. Alors, les autres séries, les autres opus ont aussi fait des chiffres similaires, mais il faut quand même se dire que voilà, en 2012, le marché de jeux vidéo n'est pas celui qui était après en 2015 et tout, puisque à chaque année, ça grossit. Donc c'est vrai que déjà, c'était un gros
et on
score.
Était encore sur la génération PS360.
Tout à fait.
Donc le public globalement était plutôt effectivement sur la Wii que sur les deux consoles HD, quoi.
Puis on n'a pas les chiffres totaux, on sait qu'ils se sont au moins tous vendus à 10 millions, mais voilà, moi je suspecte que le 3 c'est quand même beaucoup
plus
vendu.
Oui, surtout depuis maintenant. Enfin, comme d'habitude avec les jeux, quand on parle de jeux d'enfin du game comme ça qui datent de plus de 5-6 ans après avec les Humble Bundle, les trucs comme ça, enfin les jeux de toute façon ils valent tellement rien 5-6 ans après leur sortie, à part chez Nintendo, que bon, en général, maintenant, je pense qu'on peut le trouver peut-être pour 5 balles. Il y a peut-être moyen, voire même gratuit.
Ah bah, moi, je l'ai eu quand je l'ai acheté pour faire fin du game, parce que je ne l'avais pas fait à l'époque. Ouais. Je crois que je l'ai eu, c'est ça, pour 6 ou 7 euros avec une extension. Il y avait Blood Dragon avec, etc. Et bah, franchement, tu te dis, pour ce prix-là, en plus, le jeu reste jouable aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a pas été une énorme claque pour moi, mais je n'ai pas non plus passé un si mauvais moment. Et pour voir que le jeu, il a 8 ans, bah, en fait, tu voyais que c'était vraiment le début de cette espèce d'ère moderne.
C'est ça.
T'es pas surpris, en fait, en
oui,
y jouant aujourd'hui.
Il est vraiment dans notre période.
Ouais, il est très content.
contemporain là-dessus.
Exactement.
Et d'ailleurs, ça a été noté, parce que bah, le jeu, il a cartonné, quoi.
Même au niveau critique. Je crois que sur Metacritic, on est à 89 ou un truc comme ça, donc on est quand même assez haut, et le jeu est extrêmement bien reçu.
Et juste avant de passer à la suite, j'en profite juste pour dire que ça a été principalement développé par Ubisoft Montréal, du coup, le studio à Montréal, c'est plus de la moitié, je crois, des effectifs, mais en tous, 5 studios de plus dans le monde, donc t'avais du Ubisoft Shanghai, je crois qu'ils s'occupaient un peu du gameplay systémique avec les animaux, et t'avais leurs antennes, je sais pas, en Angleterre, enfin bref, voilà, c'est vraiment une production mondiale. Faut rappeler que les productions Ubisoft...
Oui, c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est vraiment une entité maintenant un peu tentaculaire, qui a vraiment des studios partout, et il y a vraiment des ponts qui se font entre tous les studios. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on retrouve des mécaniques ici et là dans tous leurs jeux. En fait, toutes les licences sont des laboratoires, et elles vont toutes profiter à d'autres licences, parce que justement, il y a énormément d'échanges qui se font entre toutes les branches d'Ubisoft.
Ouais, parce que comparé à d'autres éditeurs, il faut bien se rappeler qu'en fait, Ubisoft, c'est peut-être un des plus prolifiques en termes de nombre de jeux qui sortent chaque année, même encore aujourd'hui. La quantité de jeux Ubisoft, même ceux dont on n'entend pas parler, parce que c'est vrai que les Just Dance, etc., ils touchent moins la sphère core gamer, entre guillemets, mais ils continuent de faire des
jeux. Est-ce qu'on fera Just Dance dans fin du game
Je suis pas sûr.
Moi,
j'aimerais bien qu'on fasse du gros home un jour, voilà. Je le balance comme ça. Parce que c'était des petits projets un peu side project de Ubi.
C'est vrai.
Mais voilà, en fait, c'est vrai qu'Ubisoft, aujourd'hui, ils ont tellement de studios, ils font travailler tellement de gens en parallèle sur des mêmes projets, c'est devenu une machine, vraiment, de management, de production, de gestion, comme ça, de la production et de toute la création de chaque petite brique pour pouvoir les assembler. C'est vraiment extrêmement compliqué, tu vois. C'est comme si, enfin, c'est, tu vois, c'est comme une usine de bagnole, c'est-à-dire que t'as chaque pièce qui est fabriquée dans tous les pays,
elle est assemblée à la fin. Il y en a qui savent faire les pneus et du coup,
à la fin, ça arrive chez toi. Et du coup, bon, on le sait, ils ont eu une période où quand ça arrivait tout cassé, et ils se sont remis un petit peu en question depuis, mais voilà, en fait, ils ont fait que consolider d'année en année.
À l'époque de Far Cry 3, en tout cas, je crois que c'était très solide dans le jeu, il y a pas eu de,
ils sont au taquet, il y a pas encore trop de problèmes de bugs et de machin, ça arrive plus
tard. Ça arrivera un petit peu plus tard.
Le début du bad buzz, c'était Watch Dogs, hein, souvenez-vous.
Oui, c'est peut-être. On y reviendra de toute façon jusqu'à la fin de l'épisode. Maintenant, on va se concentrer sur l'histoire, comme d'habitude. Vous connaissez la structure. Et là, cette fois-ci, je veux dire, Maxime a vraiment à chercher. Il a fouillé, il s'est beaucoup penché sur l'histoire de Far Cry, et c'est donc toi qui vas nous la raconter.
Du coup, Far Cry 3, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui ont grosso modo entre 20 et 30 ans, qui ont pas mal d'argent, ils partent en vacances, alors on sait qu'ils sont à Bangkok à un moment, et puis ils ont l'occasion de sauter en parachute sur une île paradisiaque, et ça tourne mal. On voyait des images un petit peu justement de leurs vacances un peu en mode vlog, et en fait on est en train de les regarder depuis une cage, et on a le fameux Michael Mando / Vass / Nacho Vargas dans Better Call Saul, qui montre du coup un petit peu, qui nous montre un peu ce qu'on faisait, et puis il se moque un peu de nous, pauvres touristes américains.
Ouais.
Ce sont des pirates, ils vont nous revendre officiellement, hein, contre l'Europe.
Oui, c'est vraiment des pirates au sens moderne du terme, hein, donc vraiment, en général, c'est plutôt Kalachnikov sur petit bateau, c'est plus vraiment pirates des Caraïbes, on est vraiment dans la piraterie moderne.
Oui, non, c'est pas très romantique.
L'idée, c'est de kidnapper des gosses de riches pour demander une rançon et se faire du blé facilement.
Bah, trafic d'humains, trafic de drogue, enfin, voilà, c'est bon délire.
Et du coup, nous, on incarne Jason, hein, qui est un peu la petite tête à claque, on aura l'occasion d'en reparler. Après, tout ce groupe, ils incarnent un petit peu, justement, cette image. T'es limite content qu'il se fasse kidnapper. Non, j'exagère, c'est pas vrai, mais bon. On est enfermé dans la cage avec notre frère, qui est, je sais pas, un marine ou un soldat, en tout cas, bref, il a du combat training, il arrive à défaire ses liens, on arrive à s'échapper un petit peu avec lui, il nous initie du coup aux différentes mécaniques d'infiltration, notamment jeter un caillou pour détourner l'attention des gardes, une mécanique que vous avez peut-être oubliée, parce que à partir de 2-3 armes et des C4, on peut vite s'en passer.
Mais c'est une technique de marine, ça, vraiment. Vraiment. Ah, c'est quelque chose qu'on apprend,
oui,
bien sûr.
Cailloux, bah, tu as ton fusil et tu as une petite pochette de cailloux sur toi. Et du coup, on s'enfuit, parce qu'il nous repère, il tue, du coup, notre frère, on s'enfuit, on tombe dans un fleuve, et on est repêché par Dennis, qui nous initie, du coup, un petit peu aux voies du guerrier Rakiat, c'est-à-dire chasser, pêcher, se faire
des tatouages. C'est la population locale, en fait, hein, qui vit de manière... Enfin, qui essaie déjà de résister à ces pirates qui ont vraiment établi leur camp sur toute cette île, et du coup, cette population locale qui est un petit peu indigène, on va dire, qui a... qui a un mode de vie un petit peu ancestral comme ça, et du coup il y a cette espèce de délire de rakiat avec des tatouages.
Ouais, parce qu'on se réveille, il est en train de nous tatouer le bras.
Oui, voilà, il prend l'initiative de nous faire rentrer dans la MIF direct.
C'est ça, et donc il va nous initier un petit peu à tout ça, toute cette tradition guerrière. Ce qui n'est pas pour déplaire à Jason, du coup, qui lui kiffe un petit peu sa life, du coup, sur l'île, entre toutes les activités qui lui sont proposées. Il a le choix entre sauver ses amis, dépecer des animaux, continuer à se tatouer, se droguer,
faire des courses de voiture,
voilà, faire du quad, du delta plane.
En fait, il est encore en vacances. Ouais, sauf que ses vacances auprès une tournure un petit peu différente.
Ouais, c'est le Club Med version vénère.
C'est ça. Entre deux sauvetages d'amis, il s'éclate un petit peu.
Oui, parce qu'en fait, bon, c'est quand même ça va quand même ça être le fil rouge. Ça va être non seulement de sauver le reste du groupe d'amis de Jason, et puis aussi de se venger, hein, puisque bon, bah voilà, son frère a été abattu devant ses yeux, donc voilà, la voie du rakiat va lui permettre d'atteindre cet objectif.
Du coup, il devient de plus en plus fort. Il a rencontré la chef du coup des rakiat, qui est Citra, et qui lui dit, bon, grosso modo, que c'est une espèce de descendant d'une divinité. Elle lui raconte un peu l'histoire des rakiat, où à l'origine du peuple, il y aurait un guerrier, voilà, ce serait, je sais pas, la réincarnation, le descendant, choisissez ce que vous voulez,
c'est l'élu,
voilà, c'est un peu... On aura l'occasion de revenir un petit peu sur toutes ces images-là. J'insiste sur le fait que il kiffe, tu vois, il trouve limite un sens à sa vie, hein, et à mesure qu'il sauve ses amis, c'est un petit peu un point de repère, justement, de gens normaux, entre guillemets, qui sont un peu en train de dire, mais Jason, t'es sûr que ça va? Et lui,
qu'est-ce que c'est que ce tatouage, enfin?
Et il y a des dialogues un peu...
Sauve sa copine, je sais plus comment elle s'appelle, mais il sauve sa petite amie, et il y a tout un tas de dialogues où, en fait, elle est complètement perdue en le voyant, parce qu'elle comprend plus, en fait, comment il se comporte, et la façon dont il réagit, puisque justement, avant, c'était quelqu'un d'assez peut-être discret ou quoi que ce soit, et là, il part en mode full Rambo, quoi.
Il y a même un dialogue, je crois, où il demande à une des amies, qui est, je crois, nageuse olympique, un truc comme ça, il lui dit ça te fait quoi quand tu gagnes, et elle dit oui, j'ai l'impression que ma vie a un sens, et il dit ah ben c'est ce que je ressens, voilà. Très très subtil, hein, évidemment, mais bref, c'est ce qu'il ressent, et on devient aussi très fort. Petit détail cool à noter, c'est que les ennemis au début ils nous appelaient Snow White en anglais ou Biquette en français, et à la fin ils finissent vraiment par nous appeler Jason ou Brody. Quand on leur tombe dessus, ils font ah c'est Jason, ils nous reconnaissent, donc il y a vraiment ce sentiment de puissance. On est vraiment
Jason va vraiment reconquérir cette île au nom des rakiat, puisque du coup il y a toute cette relation avec Citra qui nous dit voilà qu'on fait partie du clan, et que c'est grâce à Jason qu'on va pouvoir reprendre le pouvoir surtout ces pirates, reconquérir ce territoire.
Sachant que là, pour le coup, on le fait vraiment dans le gameplay, puisqu'on doit littéralement reconquérir des camps de bandits pour débloquer des points de téléportation.
Oui,
il y a les rakiat qui viennent du coup réinvestir les lieux à chaque fois, et donc on reprend petit à petit possession comme ça d'une zone. Alors c'est très classique dans les open world, mais là ça colle, on va dire, avec l'histoire, dans le sens où on doit débarrasser l'île des pirates.
Et du coup, Vass, on l'avait eu plusieurs fois, il avait essayé de nous tuer, il a raté, et il y a vraiment la confrontation finale dans une mise en scène sur laquelle on pourra revenir aussi un petit peu plus en détail plus tard. On tue Vass, c'est l'occasion de quitter l'île avec nos amis, mais finalement, non, Jason décide de rester pour se venger, on sent que c'est un petit peu un prétexte. Il y a aussi Citra qui lui dit que vraiment, pour atteindre le stade ultime de guerrier, voilà, faut finir le boulot, puisque Vass, il a un boss qui s'appelle Hoyt, donc on va sauter sur la dernière île, en wingsuit en plus, on développe vraiment cette capacité. Une fois qu'on y est, on apprend que notre petit frère est encore en vie, et il y a un petit peu un point de rupture, un moment où vraiment, en fait, il se fait passer pour un mercenaire face à Hoyt, et il doit torturer son petit frère. Ça marque du coup un petit peu la rupture. Là, Jason se rend compte que, bon, dépeser des tapirs, je veux bien, torturer mon frère, ça commence un peu à être un petit peu compliqué.
Il faut placer des limites, c'est important.
Et du coup, on tue Hoyt. On se dit que c'est peut-être le moment de se barrer, mais en fait Citra a enlevé nos amis qui quittaient l'île, et elle nous soumet au choix final, qui est soit de rester sur l'île pour toujours, et donc il faudra tuer nos amis. On a vraiment le couteau sous la gorge de notre petite copine, il faut faire le choix à ce moment-là, ou du coup de...
L'ex-petite copine, hein, parce qu'entre-temps,
t'étais
rapproché de Citra.
C'est vrai qu'il y a eu une petite... Il y a un petit affect qui se noue, effectivement, avec Citra, qui allume à peu près très subtilement Jason.
On a déjà couché avec elle à ce stade-là.
Bon, c'est dit.
On a
couché, effectivement.
Il y a eu du sexe avec Citra sur l'île, c'est officiel, j'annonce. Et du coup, les deux choix, donc si on décide de sauver nos amis, il y a Citra qui est amoureuse de nous et qui dit non, arrête. Il y a Denis qui est jaloux, qui a toujours été amoureux de Citra. Il essaie de nous poignarder par colère. Citra s'interpose, meurt. Et ça termine, on quitte l'île, il y a un petit dialogue de Jason qui nous dit qu'il a commis des actes atroces, mais que voilà, il y a peut-être une possibilité de rédemption. Voilà, il sent qu'il y a un petit... Il y a autre chose, voilà. Il n'y a pas,
il
y a pas que du mauvais.
Il reste encore un soupçon d'humanité.
Il reviendra dans Far Cry Brotherhood.
Peut-être. Et si on choisit, au contraire, Citra et de rester sur l'île, et donc de tuer nos amis, on couche une dernière fois avec Citra.
Oui, dans une séquence vraiment en POV, hein, comme on dit dans le, comme on dit dans le jargon. Vraiment,
bah,
sous
de toute façon,
Citra.
Ça reste un jeu en vue subjective, donc oui, c'était pas okay. La première fois. Surtout qu'en plus, la première fois que je crois que tu couches avec elle, c'est le moment où tu combats une espèce de monstre géant. T'as une hallucination,
oui,
et t'as une
sorte
cas, de monstre géant.
D'une... Oui, parce qu'en plus,
tu te réveilles et elle est au-dessus de toi.
Ouais, et t'as cette métaphore où t'étais en train de planter le couteau dans le géant et à ce moment-là tu te réveilles et elle est sur toi, donc voilà, il y avait ce côté, cette
très
belle transition
subtil, là, encore une fois,
et du coup là rebelote et en fait c'était un prank, elle nous colle un poignard
au moment de l'orgasme
dans le vide, c'est ça, puisqu'elle décidera que ce n'est... en fait on est le guerrier ultime, mais c'est l'enfant qui deviendra le vrai leader des Rakkat.
Nous a-t-elle manipulé tout ce temps ?
Elle récupère le génome,
les enfants terribles, référence. Et du coup, voilà, elle nous a trahis à la fin. C'est Est-ce qu'elle nous trahissait ? Est-ce qu'elle ne nous manipulait pas depuis le début ? Là est toute la question.
Voilà, voilà. Donc, c'était Far Cry 3, résumé assez, assez rapidement.
Ce choix vraiment typique, hein, vraiment de cette époque-là du jeu vidéo, d'avoir vraiment un espèce de choix de fin, alors qu'il y en a eu zéro tout au long du jeu. Ça, c'est vrai que c'est vraiment un truc qu'on retrouvait quand même dans beaucoup de jeux de cette époque. Et en plus, un choix qui, déjà, on peut le dire, a quelque chose d'un petit peu contradictoire. C'est-à-dire que dans un sens, Citra est vraiment très manipulatrice et vraiment elle nous utilise pour pouvoir récupérer notre génome, on va dire, notre ADN, pour pouvoir faire l'enfant parfait sans Gohan. Et de l'autre côté, en fait, elle est vraiment amoureuse de nous et nous protège de Denis et elle se sacrifie. Donc il y a déjà quelque chose d'assez particulier, je trouve, dans l'écriture du personnage, en fait, selon notre choix,
c'est
un autre personnage.
Ouais,
en fait.
C'est ça, c'est qu'elle change complètement de personnalité.
C'est
et
si
c'est
tu
pas
fais un
du
choix
tout,
différent, c'est pas le même personnage.
Ouais, il
n'y
avait pas vraiment
arc.
D'indice sur le fait qu'elle pouvait plutôt s'orienter là-dessus, parce qu'au contraire, à chaque fois, quand on a des interactions avec Citra, on est dans un truc très tribal où les gens ils chantent, ils se mettent à danser quand ils nous voient, etc. Enfin, on est dans un gros délire de héroïfication, tu vois, de Jason, et jamais les relations avec Citra elles prennent une tournure subtile. C'est juste on couche avec elle et puis bon bah parce que on est dans un personnage de jeu vidéo.
Après le fait qu'elle nous manipule encore, ça peut, parce que c'est quand même elle qui nous envoie un peu faire des trucs, tu vois, qu'elle nous allume un peu. Donc personnellement je trouve que voilà, s'il fallait choisir un arc de personnage, je trouve que celui où Jason termine vraiment à la fin par tuer ses potes et que Citra se fout un peu de nous,
ça colle plutôt avec le perso.
Je trouve que c'est celui qui a l'arc peut-être le plus intéressant et qui à mon avis est peut-être limite le plus canon en fait par rapport à la trajectoire de Jason.
Oui, oui, mais ça, c'est un nom que vous allez souvent entendre, mais Jeffrey Yohalem, qui est l'auteur, lui, considère que c'est un peu la vraie fin, tu vois, la fin où elle te tue, vraiment, c'est un peu la vraie fin, mais peut-être que le choix, elle lui était imposé, ça, je sais pas, parce que comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est un peu à la mode, entre guillemets, on l'avait déjà évoqué, il y a les BioShock qui font ça, enfin, il y a plein de jeux qui font ça. Mais du coup, donc ça, c'était l'histoire assez expédiée, entre guillemets. On peut noter des thématiques. On va dire il y a un peu deux niveaux de lecture qu'on va un petit peu relever. Il y a le premier qui est un peu évident entre guillemets quand on se penche sur les dialogues, quand on regarde un petit peu à tête reposée, qui peuvent nous venir même assez simplement quand on joue, et on l'a déjà évoqué, il y a vraiment cette notion de la descente dans la folie, un peu en mode entre guillemets Apocalypse Now, sans que ce soit forcément une référence
mais Jason vraiment perde les pédales, et justement en fait le fait que ses amis se disent attends, qu'est-ce qui t'arrive, enfin pourquoi ce mec là aime jouer avec des Kalachnikov et se tatouer, et du coup c'est encore une fois, c'est pour ça que je dis que je pense que cette fin là est plutôt celle qui correspond, parce que justement ça vient conclure
la suite
cette
d'événements du
de
jeu, c'est ça, vu que t'es dans l'ivresse du meurtre, du machin, du bidule, à la fin, bon bah après tout, tu te dis, bah oui, je vais tuer mes amis, tu vois, tu vas renoncer à qui tu étais avant et tu embrasses totalement ton rôle de guerrier, quoi.
Déjà, il y a des séquences vraiment hallucinogènes, hein, c'est vraiment une des petites touches comme ça de ce jeu, hein, les passages où on va prendre des drogues, il y a cette fameuse séquence dans laquelle on prend des champignons, on descend dans une espèce de grotte.
Quand tu croises le premier docteur, c'est ça, quand
exactement,
tu vas chercher tes amis.
Docteur Champy, et puis après, bah, comme tu le disais, il va y avoir encore une séquence où on hallucine avec Citra, enfin bref, il y a plusieurs moments dans le jeu comme ça, où on a des trucs un peu, on sent que ça se passe plus dans notre tête que dans le monde réel. Je crois que le combat avec Vass aussi est un peu dans un délire. Bah,
t'as toute une mise
ça,
en scène, hein, en fait, où quand t'as le vrai affrontement avec Vass, parce que tu l'affrontes à différents moments, mais quand t'as le vrai combat, bah oui, c'était dans une scène où tout est effectivement
tout est noir, hein,
tout est noir, le reste du décor disparaît. Vass, il apparaît sur des télés, il te parle. Des fois, c'est ton écran. Enfin, des fois, c'est son visage qui apparaît à la place du tien, etc. Enfin, voilà, il y a tout un truc de délire de mise en scène où il y a vraiment une vraie opposition entre les deux bonhommes
Et Vass, lui, qui parle aussi beaucoup de folie, hein.
Oui, c'est ça, c'est justement le côté thématique folie
du jeu, ouais, c'est ça.
Vass, qui est un peu notre miroir, en fait, qui est la version folle, du coup, de Jason, et si vous regardez vraiment le, entre guillemets, combat contre Vass, parce que si vous regardez bien, c'est même pas un QTE, en fait, il n'y a pas de combat, on le tue en cinématique, contrairement à d'autres persos qu'on va tuer, donc c'est Buck et Hoyt, qui sont les deux autres persos qu'on tue vraiment en QTE. Vass, il y a un moment où il tient vite fait, il prend genre ton flingue, il le met sur le front, et tu peux faire clic gauche, mais que tu le fasses ou pas, il décale le flingue et ça tire, en fait t'as rien à faire, et quand tu le tues au couteau, tu ne le tues même pas, et il y a toute une imagerie en fait où il dit je suis toi, tu es moi, il y a des moments, des images de Jason qui grésillent, et c'est Vass qui le remplace, il a une espèce de, je sais pas, il doit citer la Bible, un truc comme ça, genre il dit accepte-moi comme ton sauveur, quelque chose comme ça, donc cette notion un petit peu de fusion, du fait qu'il soit toi, et au moment où il meurt, en fait il rouvre vraiment les yeux au dernier moment en te regardant. Il y a un peu, voilà, c'est comme je dis, cette notion qu'il y a une fusion qui s'est opérée, tu vois, c'est un peu comme s'il était passé.
Oui, et puis il a vraiment une obsession avec nous, hein, parce que dans le jeu, on le parcourt comme ça, il y a une radio, et du coup, Vass, il parle, et du coup, on l'entend qu'il parle de nous, enfin, il est vraiment obsédé par Jason. Il y a une espèce de relation très très particulière qui se noue entre nous et ce personnage. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que c'est surtout celui qu'on retient quand on joue au jeu, parce que bah, la relation joueur, elle se fait surtout avec Vass, il parle de nous, et du coup, oui, il y a ce truc où lui... En fait, c'est nous en avance, c'est-à-dire que lui, il est déjà tombé dans la folie, il est déjà tombé dans son délire et il a pris possession là des lieux avec son équipe de pirates. Et après, c'est nous qui allons le remplacer, en fait, tout simplement.
Parce que lui était, il y avait aussi tout un arc en fait avec Citra, qui est donc sa sœur, et en fait, elle l'aurait manipulé pour qu'il devienne lui le guerrier Rakiat, mais finalement, il s'est un petit peu détaché de tout ça, donc on le remplace vraiment. Et c'est Citra un petit peu qui nous influence pour le tuer aussi, même si on avait des motivations au début, il a tué notre frère. Mais bref, on devient Vass. C'est d'ailleurs intéressant de noter qu'on débloque la wingsuit après, tu vois, vraiment en mode peut-être folie totale, tu vois, c'est bon, on a débloqué vraiment peut-être un élément de gameplay qui peut signifier ça. Et aussi, quelque chose qui a beaucoup été reproché à Far Cry 3, c'était que Vass meurt trop tôt, parce que c'est un personnage qui est hyper marquant, hein, comme on l'a dit, il est sur la jaquette du jeu, c'est une vraie belle performance de Michael Mando. On le tue assez vite, mais ça colle bien avec justement cette thématique que Jason, en fait, il devient fou, parce qu'une fois qu'on a tué Vass, en fait, on en veut plus. On pourrait terminer l'aventure là, Jason pourrait se barrer avec ses amis, mais en fait, il se dit non, je vais aller sur l'île, je vais aller tuer.
Oui, parce que si la vengeance était accomplie à ce moment-là et qu'il se barrait, en fait, il n'y aurait pas ce délire de tomber dans la folie. En fait, quand tu tues Vass, t'es déjà beaucoup plus loin, en fait,
t'as déjà perdu pied, parce que du coup, c'est pour ça que c'est vraiment, il y a un glissement vers le fait que la vengeance, c'est pas la finalité.
Exactement.
C'était pas le but de sauver son frère, parce que ça fait même longtemps en fait qu'il en a plus grand chose à faire en réalité, parce qu'il revient de moins en moins souvent demander des nouvelles de ses potes. À chaque fois qu'il va les voir, il leur parle de manière très distanciée, en leur disant que de toute façon, lui, voilà, je veux dire, tu sais, tu l'imagines avec ses 83 armes sur le dos et ses 4 kilos de C4 en disant bon, les loulous, je vais chercher à manger, je reviens tout à l'heure, tu vois, c'est Koh-Lanta vénère, mais de toute façon, il prend distance avec ses amis, il prend distance avec son passé, et effectivement, quand il tue Vass, t'as cette espèce d'apothéose de leur relation amour-haine extrêmement étrange qui s'était créée depuis le début du jeu, qui arrive, et derrière, il a une espèce de vide, en fait. Tu vois, il a un vide à combler en disant, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai tué Vass? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, on va prendre la prochaine cible qui, elle, n'a aucun intérêt. Tu vois, c'est ça, j'ai trouvé ça assez surprenant. Hoyt, t'es là, tu t'en fous.
En termes de charisme.
Tu vois, c'est vraiment le personnage Osef, même au niveau de la mise en scène, ses dialogues, ils sont pas super intéressants. Tu vois, se la joue un peu sociopathe du genre ouais l'argent et tout, oulala, mais ça se tient sur rien, tu vois. Il a vraiment c'est vraiment un homme de paille qui est là juste pour justifier le fait, je pense, ouais, que bah, une fois qu'on a tué Vas, on ressent ce vide et il faut quand même chercher malgré tout.
Puis, surtout que Jason fait déjà des espèces de grands discours devant les rackets, enfin en fait il a déjà pris la grosse tête entre guillemets, enfin, il est déjà devenu oui je suis votre sauveur, c'est moi le champion et avec moi on va tous y arriver. J'ai revu cette espèce de séquence où il fait un discours comme ça, c'est notre projet, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez, tu fais ah, d'accord, le mec il a vraiment vrillé, quoi.
Et c'est pas mal parce que enfin ce côté descente dans la folie, parce qu'au final il y a plutôt une bonne harmonie je trouve entre les actions du joueur et ce que lui ressent, puisque comme on l'a dit, on est dans un open world mais il faut sauver nos amis, mais on a envie de faire un petit peu les activités que lui fait autour de nous, donc pour que le personnage il fasse nos actions de joueur, faut qu'il soit fou en fait, il y a pas d'autre méthode pour que le mec n'ait pas la priorité de sauver sa petite copine et qu'il fasse du delta plane. Bah ouais, faut qu'il aime faire
ça c'est d'un point de vue narratif, c'est-à-dire que en imaginant que ce personnage puisse exister dans la réalité, il faudrait, pour qu'il en arrive là, à faire. Parce que dans les faits, il n'y a aucun jeu vidéo où il y a cette espèce d'impératif de temps. C'est-à-dire que oui, il faut sauver la planète, mais d'abord, on va aller faire les courses de Chocobo. Enfin, je veux dire, ça a toujours été une règle dans les jeux vidéo que... Enfin, le CD3 de Final Fantasy, je le dis, c'est pas du gros spoil, il y a un gros météore qui doit détruire la planète et tu peux faire tout ce que tu veux. C'est le moment où le jeu s'ouvre totalement.
Mais non,
on n'a pas besoin de biper. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le moment où le jeu est complètement libre. Il y a cette menace qui va détruire le monde, mais c'est le moment où toi, tu as accès à tout le jeu et tu peux faire ce que tu veux.
Oui, mais ce que voulait dire Maxime, c'est que du coup, c'est cohérent dans le jeu, en fait, qu'il n'y ait pas cet impératif. Contrairement, par exemple, moi, je pense à Witcher et Siri. Du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté, lui qui prenne le temps faire d'autres trucs parce que justement il est dans ce délire là et que ses amis ils s'en foutent un petit peu, et ce qui l'intéresse lui beaucoup plus c'est l'île, c'est vraiment ce qu'il fait sur cette île.
Il s'exprime vraiment, t'as cette scène où tu sauves justement ta petite amie, elle conduit et toi t'es avec un lance-grenade sur la voiture, tu bombardes la voiture, il s'éclate vraiment, il y a des vraies scènes, il s'éclate parce que toi en tant que joueur c'est ton plaisir de jeu, ou quand il est en train de cramer le champ de bœufs, pareil il te lâche des petits wouh c'est génial et tout, et eux ils te rajoutent en plus la musique de Skrillex vraiment par dessus, enfin c'est un des moments iconiques du jeu que plein de joueurs ont adoré, et Jason aussi il adore, tu vois, parce qu'il est fou en fait. Si tu pourrais pas avoir un personnage qui adore ça comme le joueur sans qu'il lui manque une case, tu vois.
Mais ça, c'est que la lecture premier degré, Maxime, parce que tu n'es peut-être pas allé assez loin. Je blague un petit peu comme ça, parce que en fait, a posteriori, une fois que le jeu est sorti, ça c'est vraiment quand même la lecture que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont eue, vraiment dans les tests et compagnie, c'est vraiment ce qui est ressorti. Il y avait quand même quelques reproches, même à ce niveau-là, sur l'espèce de délire sur du sauveur blanc, comme ça, que le jeu pouvait un peu glorifier cette idée-là.
Le jeu balance quand même tout un tas d'idées reçues, de poncifs, de clichés. Enfin, tu vois, Denis, il a un gros accent, t'as vraiment... Ouais. Des remarques qui sont ultra sexistes, t'as tous les gardes là qui font tout le temps des remarques sur les meufs, etc. T'as tout le délire où en fait le personnage de Jason c'est juste un gosse de riche qui arrive et qui dirige toute une île d'indigènes, donc forcément ça pose
tout un
tas de questions.
Il y a un espèce de rapport de force en fait qui peut être dans le jeu où tu fais ah ouais quand même c'est un peu sale, et puis il y a aussi la relation avec Citra, enfin le fait que ça soit la petite Pocahontas qui tombe évidemment amoureuse de toi et tout, enfin voilà, surtout que encore une fois, Citra, dans sa manière dans laquelle elle est designée et comment elle t'est donnée, on va dire vraiment dans le jeu, c'est quand même, pour moi, c'est vraiment quand même, coucou le jeune gamer en rut, voilà, je te fais plaisir, parce
que c'est ça,
vraiment, elle est vraiment hyper sexualisée.
Le jeu tel qu'il est pensé, c'est vraiment, et du coup, ça rejoint ce que tu étais en train de dire et ce qu'on va aborder juste après, c'est que Far Cry 3, il est vraiment pensé comme une espèce de grosse bac à sable, dans le sens où tu viens y faire tout ce que tu veux, et le personnage de Jason, lui aussi, il vient faire ce qu'il veut, il n'y a rien qui l'empêche.
C'est un jeu fantasme, jeu paradisiaque, tu viens faire l'île paradisiaque où bim bim, tu tires dans tous les sens, la meuf la plus canon du compte, elle est amoureuse de toi, enfin il y a tous ces espèces de trucs qu'on a envie de
mais,
faire vivre.
Plot twist, en fait oui c'est un fantasme, mais c'était pensé au départ Max comme étant une critique de ce fantasme là et non pas une espèce d'apologie de cette vision là mais ça n'a peut-être pas si bien fonctionné.
Dans un premier temps on va voir un petit peu les intentions du coup de l'auteur Jeffrey Yohalem. Auteur vraiment au sens écriture,
directeur créatif, sachant que encore une fois sur les prods d'Ubisoft, c'est pas pour rien qu'on vous disait qu'il y a plein de studios et tout, c'est que souvent il y a plusieurs têtes pensantes de différents départements et compagnie, et donc lui il était lead en fait sur l'écriture du jeu,
qui est pas un rôle qui est beaucoup sur le devant de la scène, je trouve, en tout cas quand nous en tout cas dans Fin du Game,
surtout dans un jeu open world de ce style là, effectivement
on a plus tendance à parler du game director, du créateur du directeur créatif, tu vois. Après, quand on parle des indés, ils ont tous 8 casquettes, donc
oui, c'est ça,
compliqué.
C'est souvent
mais même, même dans les crédits, c'est-à-dire que ouais. quand tu m'avais dit, ah oui, le nom important à retenir, oui, c'était Jeffrey Ulay, mais moi j'ai regardé dans les crédits, que ce soit Far Cry 3 ou 4 ou 5, c'est la même équipe, c'est la même équipe de créatifs, de narrative designer, etc. Il apparaît finalement assez tard, c'est pas les personnes qui sont mises en avant directement, mais par contre, c'est une personne qui a énormément pris la parole après la sortie de Far Cry 3. C'est lui qui a accepté le BAFTA, puisque le jeu avait eu le prix du meilleur jeu d'action en 2013, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et c'est lui qui prenait la parole sur scène pour remercier le jury. Et il a fait tout un tas d'interviews où il expliquait justement ses intentions et que, ben, le jeu était peut-être finalement un peu plus profond que ce que nous on avait compris dans les tests, ou en tout cas dans la presse, on va dire, parce que souvent l'histoire du jeu dans les tests était mise on va dire de côté en disant bon, c'est un peu OSEF, le reste du jeu est très cool, vraiment le jeu, on l'a dit, hein, il a été très bien reçu, mais il y avait un petit bémol en disant ouais, bon, l'histoire, on s'en bat un peu les reins.
Et en plus, ça use parfois de tropes un petit peu crades qui sont pas forcément très bons à prendre, dont on pourrait se passer dans le jeu vidéo.
Mais voilà, lui, il défend tout, en fait, il dit non, c'est pas premier degré, c'est pas même le trop, il est pensé, parce que lui, son intention, c'était vraiment de questionner un petit peu les actions du joueur, vraiment ce qu'on fait dans le jeu, de se poser des questions sur la boucle de gameplay, le monde dans lequel on est. Lui, il se reposait un petit peu sur Far Cry 2, en fait, qui avait l'idée de déconstruire un petit peu l'image du héros, de nous faire réfléchir, mais qui avait un gameplay pénible et qui n'a pas été hyper bien reçu, même s'il a bien marché. Là, il s'est dit, en gros, avec Far Cry 3, je vais reprendre un petit peu cette idée de questionner, un peu méta, tu vois, de questionner un petit peu ce qu'on y fait, mais en faisant un jeu très fun, en tout cas, où c'est comme c'est pas lui qui fait le jeu, plutôt en admettant.
En coexistant, voilà, en fait, en essayant de coexister avec un jeu qui serait très très fun et qui ne serait qui n'aurait pas les contraintes qu'avait Far Cry 2.
Et même trop fun, tu vois, il serait tellement fun que tu dirais, t'aurais une overdose de fun et tu dirais, attends, il se passe.
C'est pas normal que j'ai trop de fun dans un jeu comme
c'est ça. Et lui, son idée, c'est donc de faire une maison, une île tellement fun. Il a une métaphore où il dit, en gros, il ferait une maison dont il enlèverait les fondations. Et en fait, le joueur, il devrait voir cette espèce de maison flottante qui n'aurait pas de sens, en fait. Donc le jeu, hein, qui n'aurait pas de sens, et commencer et se mettre à questionner un petit peu tout ce qu'il y a. Avant de critiquer, alors on va venir un petit peu sur l'illustration. Par exemple, l'île s'appelle Rook Island. Rook, ça veut dire tromper dans le sens escroqué en anglais. Rakyat en malaisien, ça veut dire peuple. Et en fait, pour lui, c'est évident. C'est évident que c'est trop gros pour être vrai, tu vois.
Ouais, on l'avait dit, il y avait la ville où il y avait la prostituée, là. Et
Bad Town,
le type, elle s'appelle Bad Town, tu vois, la méchante ville. La ville
pas bien. Pour lui, c'est trop grossier. Enfin, c'est trop flagrant. On chasse
en fait, son idée, c'est de dire qu'il aurait exagérer tous les traits du jeu et que ça nous permettrait de se dire en fait c'est tellement exagéré que en fait c'est pas à prendre au premier degré comme nous on l'a fait là dans notre décryptage. Du coup il parle aussi effectivement des animaux en voie de disparition,
chasser des espèces en voie de disparition. Ce serait aussi quelque chose de grotesque en fait qui nous questionnerait sur le monde, puisque je rappelle son propos, il fallait questionner le monde pour se dire qu'est-ce qu'on y fait comme action, de comprendre qu'en fait Jason, c'est pas non plus ultra subtil, on peut le comprendre aussi, hein. Jason, c'est un peu une métaphore du joueur, hein, du mec lambda un petit peu paumé dans sa vie, qui s'éclate en jouant au jeu vidéo, qui s'affirme en jouant au jeu vidéo, et à la fin, t'as ce choix final, où t'as le choix finalement entre rester dans le jeu, sur l'île, et d'ailleurs, Citra, quand elle nous tue, elle nous dit « you win », tu vois, il y a vraiment ce champ lexical du jeu, et c'est pas la première fois qu'elle l'emploie, ou au contraire, quitter le jeu un peu en mode « t'enfiles ton slip et tu vas prendre le soleil », quoi. Hashtag, ça te fait réfléchir. Voilà, donc lui, c'est un petit peu, son propos, questionner un petit peu tout ce fun. Qu'est-ce que ça dit sur nous ? C'est assez vague, hein, finalement, tu sais que moi, vraiment, je m'étais pas mal penché un petit peu sur tout ça, et j'ai dû je suis retourné sur les interviews pour dire attends, mais en fait c'était quoi déjà ce qu'il voulait dire, parce que c'est un petit peu vague. Il n'y a pas une action particulière qui veut questionner, il n'y a pas une guerre qui veut questionner, il n'y a pas un endroit qui veut questionner, c'est les actions du joueur en général.
Oui, c'est vraiment notre rapport en fait en tant que mec qui va gagner de la puissance en fait au sein d'un univers qui n'est pas le nôtre. Et voilà, en gros, c'était ça, c'était de te faire poser tes questions, justement, de te dire, ah, en fait, je devais moi aussi prendre de la distance avec Jason, et je devrais remettre en cause tous ces plaisirs que je suis en train de prendre.
Oui, en fait, il y aurait une volonté de se sentir un petit peu coupable, de prendre autant de plaisir.
Au mieux, voilà, ça serait ça. Exactement.
Ça serait ça, l'objectif final, mais dans les faits, ça fonctionne pas. Enfin, en tout cas, moi, du coup, avant que tu me parles de ces interviews, etc., je m'étais dit juste que c'était un jeu qui était juste du front, beauf, au possible, et qu'il était, tu vois, assez anachronique. Parce que bon, c'est un jeu pré-Gamergate, donc tu te dis, c'est vrai que c'était encore ces exemples de jeux-là. Et en fait, le fait qu'il y ait eu une intention à ce point-là de vouloir avoir un sous-texte, je suis surpris parce que, en fait, moi, je ne l'ai pas du tout ressenti de cette manière-là.
En fait, pour lui, c'est une satire. je crois qu'il ne comprend pas en fait vraiment ce qu'est une satire. Et justement, en fait, ça ne te choque pas puisque il faut contextualiser ce que tu as dans le jeu par rapport aux autres jeux. Et ce qu'il y a dans Far Cry 3, c'est absolument pas choquant par rapport à ce que tu as dans plein d'autres jeux. Pourquoi est-ce que tu questionnerais le monde de Far Cry 3? Pourquoi est-ce que tu questionnerais le fait que racket des gens malaisiens, ça veut dire peuple, si tu as noté? Alors qu'on voit régulièrement, t'as des exemples, je sais pas si vous suivez, on a déjà parlé, mais Rami Ismail sur Twitter, régulièrement, ils te montrent des jeux qui ne savent pas écrire en arabe, qui ne le font pas volontairement, c'est juste parce que...
Oui, ils prennent pas le temps de faire des recherches, oui, etc. Ils font au premier degré, ils se posent la vraie question. Ouais. Ça passe, en fait, on va pas s'y intéresser.
Voilà. Surtout, je veux dire, moi je parle pas malaisien, donc c'est pas une langue que je peux comprendre, tu vois. Rook Island, je m'étais dit, bon, il y a un truc, voilà. Mais je veux dire, on avait déjà l'île de Melee dans Monkey Island, donc, enfin, tu vois, je veux dire, non, mais des noms bizarres.
En fait, Rook Island, pour moi, il y a une espèce d'ambiguïté, ça pourrait très bien être, bah oui, c'est une île, justement, qui va te corrompre, qui va te transformer, enfin, tu peux aussi le prendre comme ça, donc, il n'y a pas vraiment, enfin, c'est ce qui va vivre Jason, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'indices, et encore une fois, après, pour lui, c'est aussi les choses de gameplay que tu vas faire, le fait que tu es plein d'armes, que tu deviennes très puissant. Il faut rappeler quand même que le dernier jeu d'Ubisoft avant, c'est quand même Assassin's Creed, c'est ça le gros jeu, où on saute quand même de tours pour tomber dans des meutes de foin. Et tu peux, enfin, dans un jeu vidéo, c'est cohérent en fait, et tout.
Et c'est ce qu'on disait à l'instant, tu vois, sur l'impératif du chronomètre, en disant oh là là, il faut que je sauve mes amis, mais d'abord je vais faire des trucs. Oui, tous les jeux le font déjà en fait. Donc il y a pas de, le jeu ne va pas sortir des sentiers battus, parce que avoir plein d'armes, ça n'a rien de choquant. Être super fort, ça n'a rien de choquant.
Gagner en puissance,
pouvoir se déplacer librement, ça n'a rien de surprenant. Et donc en gros, le jeu ne fait que renforcer des mécaniques et surtout des systèmes,
des passifs, une imagerie qu'on connaît déjà. Tu vois, le fait que la meuf elle te veuille toi, mais ben, oui, évidemment.
Justement, les jeux vidéo ont toujours été construits.
C'était un problème,
ça,
tu vois. Et le truc, c'est que le mec ne fait que renforcer ses problèmes en les accentuant. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça questionne toute l'idée de la satire. C'est-à-dire, comment tu fais vraiment une satire? Il faut qu'une satire, pour qu'elle soit bien faite, tu donnes suffisamment de clés, même implicitement, pour que il y a quand même une majorité de gens qui captent que t'es en train de leur faire une blague, quoi.
Ou alors que tu pars dans le délire Rockstar où la satire dans tout ce qui est narratif, elle est très présente et c'est impossible de la rater.
Voilà.
La critique de la société américaine, elle est constamment là, mais elle est rendue complètement caduque par tout le gameplay où on te pousse à faire n'importe quoi.
Ça, on pourra en discuter.
On en rediscutera, je pense, le jour où on parlera de ces jeux-là. Mais par exemple, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une opposition entre ces deux trucs-là. Là, dans Far Cry, le discours du jeu ne va pas suffisamment loin pour qu'on se rende compte de ça. Moi, je voyais bien l'espèce de délire qu'il pouvait y avoir avec Vass, mais c'est pas la première fois qu'on a une relation un petit peu toxique avec un ennemi et qu'on a des mises en scène. Justement, Assassin's Creed fait des mises en scène des assassinats des personnages, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, très stylisés avec le décor qui disparaît, etc.
C'est pas cohérent ou ça part dans un délire. Ouais.
C'était déjà la même chose. Ouais. Et des scènes de folie, depuis Max Payne, depuis Bioshock, depuis tout un tas de jeux, on en avait déjà vécu plein en réalité.
Bah oui, en fait, pour lui, c'est un jeu grotesque. Et c'est pas faux si tu compares à, entre guillemets, la vraie vie ou ce que tu peux voir dans le cinéma ou des films qui seraient sérieux. Et encore, dans le cinéma, il y aurait plein de films d'action qui se passeraient un petit peu à la Far Cry. Mais si tu compares aux autres jeux, tu vois, lui, il veut faire flotter une maison, mais tu regardes autour, il y a des buildings qui volent, en fait, autour. C'est absolument pas choquant. Tu regardes Tomb Raider, parce qu'il y a une interview qu'on vous recommande de lire dans Rock Paper Shotgun où Jeffrey Yohalem, du coup, se défend un petit peu face à un journaliste. Il lui rappelle que en face, t'as Uncharted, t'as Tomb Raider, tu tires sur des putains de dinosaures. Du coup, dépecer des tapirs ou des casoirs, c'est pas quelque chose qui va te faire questionner.
C'est pas caricatural en fait pour le jeu vidéo, c'est quelque chose de normal. Et c'est vraiment là tout le problème de ce truc. Et encore une fois, vraiment, c'est pas juste pour nous défendre tous les trois parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas assez des gros cerveaux, ce qui est peut-être possible, bien évidemment. Mais le problème, c'est que vraiment, en fait, à la sortie du jeu, il y a quasiment personne. Il y a certaines personnes qui ont pu...
On peut citer
le journaliste de Canard PC,
Louis Ferdinand Sebum,
qui lui avait vraiment mis 10 au jeu parce qu'il avait perçu cette espèce de discours. Mais la réalité, c'est que quasiment l'immense, écrasante majorité des personnes qui ont joué au jeu ne l'ont pas comprise. Et surtout, encore aujourd'hui, là on peut le dire, on est en 2020, donc 8 ans après la sortie du jeu, est-ce que c'est ça qui nous est resté de Far Cry 3? Est-ce que ce truc-là, ça a vraiment été réhabilité? Pas du tout. Moi, je me suis amusé à regarder des tests, des vidéos qui sont ressorties sur le jeu là récemment. En fait, cette espèce de discours, cette lecture-là, elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas parce que de toute façon, le jeu ne donne pas vraiment à cette clé pour
le jeu et même la communication autour. C'est-à-dire qu'en amont même de la sortie du jeu, la mise en avant de Vass pour en faire cette espèce d'antagoniste, vraiment la grande figure du méchant qui va être reprise d'ailleurs dans la foulée dans Far Cry 4 et 5, ça met en avant ce côté délire, ce côté bac à sable, ce côté fun. Donc en gros, même la communication du jeu ne nous laissait pas sous-entendre qu'on allait jouer à autre chose. Et surtout, un autre truc, c'est qu'on joue à un jeu Ubisoft, on est dans des jeux AAA ou vraiment très lissés, très mainstream, etc. Donc on s'attend pas, en fait, en prenant finalement un jeu divertissement de cette ampleur-là a quelque chose avec du sous-texte aussi intéressant. C'est triste à dire.
Ça aurait pu être le cas. Hein, ça aurait pu être le cas. S'il l'avait fait. Enfin, encore une fois, c'est vraiment un problème d'exécution. C'est-à-dire qu'il y ait l'intention, ok, très bien. Il y a déjà une chose à savoir, c'est pour ça qu'on l'a spécifié, c'est qu'il n'est que entre guillemets auteur, hein, et qu'il y a d'autres gens en fait qui ont dirigé le jeu et qui n'avaient pas forcément envie de faire coexister cette intention-là, parce que bah, tous les systèmes de jeu de toute façon ne soutiennent pas ce qu'ils
ne comprenaient pas, parce que ça se trouve évidemment qu'ils ont dû communiquer entre eux, mais peut-être qu'ils ne comprenaient pas, tu vois, sa vision, parce qu'il avait du mal à le communiquer, et donc ils ont fait leur jeu en se disant oui bah
on le laisse faire et ça son passe truc. En fait, voilà. Ça passe pour tout ce qu'on veut communiquer, même si on prend son truc satire au premier degré. Donc si on le prend juste bah, du front, c'est débile. En fait, ça marche avec notre idée du fun et de tous les systèmes qu'on
et ça colle avec tout l'imaginaire et toute la grammaire du jeu vidéo à cette époque, encore aujourd'hui, je veux dire même encore aujourd'hui, ça me choque un peu parce que effectivement les propos qui sont tenus dans le jeu, ils sont choquants et c'est des choses sur lesquelles on a appris à réfléchir aujourd'hui, mais il y a encore 8-9 ans, bah non, pas du tout. Enfin, ça n'avait rien de si surprenant que ça en fait.
Oui, il y a une notion qui est importante à soulever, c'est vraiment cette notion de fun. Tu vois, ils voulaient faire un jeu fun et questionner le fun, mais en fait, dans le jeu vidéo, ce fameux fun, c'est souvent l'alpha et l'oméga. Mmh. C'est-à-dire que la majorité des jeux, leur but c'est d'être fun. Donc tu ne le questionnes pas. En fait, il y a des mécaniques de jeu qui sont rajoutées justement parfois en contradiction avec l'histoire. Exactement. Même, mais parce que c'est fun, on le garde. Mmh. Tu vois, il parle d'éléments grotesques, mais tu prends n'importe quel FPS, le mec se trimballe 15 armes sur lui, toutes les munitions et tout. Enfin, ce n'est pas possible, mais parce que s'il y avait une gestion du poids, s'il fallait aller chercher des armes, en fait, ce ne serait pas fun. Et du coup, c'est pas de la satire, c'est de la suspension d'incrédulité. Mmh. C'est comme si un mec qui te faisait un film d'action et qui disait, tiens, t'as vu, là, il a pris une voiture, il a pas fait de créneau, en fait, alors qu'il est en plein centre de Paris. Et c'est une satire, en fait. Parce
ouais,
que
ça fait 6 heures qu'il roule, il a pas fait plein.
Et voilà, il dit, c'est une satire, parce que la vraie vie, c'est pas comme ça. Tu dis, mais attends, t'as déjà vu James Bond, t'as déjà vu Jason Bond. Enfin, c'est normal au cinéma, en fait.
En fait, on accepte déjà dans la fiction, de manière générale, que bah, les choses se passent pas comme dans la réalité. Oui, il va y avoir plus de balles. Oui, on va pouvoir esquiver des balles. Oui, on va pouvoir sauter d'un toit en flamme et atterrir sur le sol et juste se fouler un petit peu la cheville et retaper un sprint juste derrière. Enfin, je veux dire, on est déjà face à des figures de personnages héroïques qui font des choses qui sont complètement improbable, et donc le montrer dans un jeu vidéo en disant mais regardez, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie,
c'est pour ça qu'on joue aux jeux vidéo,
effectivement.
On va peut-être pas passer trop tôt non plus, par contre ce qu'on peut faire c'est vraiment vous renvoyer sur l'article de Rock Paper Shotgun, comme ça peut-être que les gens qui n'ont pas forcément eu toute cette histoire, parce que nous, bah moi je l'ai découvert là pendant qu'on préparait l'émission, toi Benoît on te l'a
pareil,
dit, voilà Max toi t'es tombé là-dessus dans tes recherches, et c'est comme ça que c'est venu dans la construction des jeux, et ça nous a vraiment posé des questions, mais vraiment allez voir l'article sur Rock Paper Shotgun si vous voulez vraiment un petit peu mieux comprendre ça. Et bon, ce qui est intéressant de toute façon, c'est que le mec, voilà, en fait, il n'admet pas qu'il y a une erreur, en fait. C'est vraiment, il reste dans une position, en fait, moi, j'ai tout bien fait et c'est vous qui n'avez pas compris. Et c'est peut-être ça qui me dérange le plus, en fait, c'est que même un mec comme Alan Moore qui a fait Watchmen et que Watchmen, parfois, n'a pas forcément été tout le temps compris, lui-même, il se dit, bah, en fait, peut-être que j'ai pas réussi, peut-être que j'ai pas assez bien fait les choses parce qu'on comprend pas l'ambiguïté et vraiment, en fait, les personnages où ils veulent aller. Même si Alan Moore est capable de faire sur lui-même, je pense qu'un mec qui a écrit dans un jeu vidéo, en plus, qui était pas vraiment au contrôle de tout, aurait pu se dire, bah, en fait, avec le gameplay, bah, ça a pas pu marcher, j'ai pas pu réussir à faire ce que j'ai voulu faire. Et ça, je pense que ça aurait été intéressant, en fait, qu'il fasse son autocritique, de se dire pourquoi il y a autant de gens qui ne l'ont pas compris.
C'est presque dommage, parce que ça aurait été sûrement, en fait,
exactement,
plus enrichissant, parce qu'on aurait pu se dire, ah merde, on est passé à côté d'un truc, alors que là, on le montrer de cette manière un peu agressive.
Et pourquoi il a pas réussi à le faire, tu vois, le fait qu'ils me disent, bah voilà, pourquoi ça marche pas, en fait, ce que j'ai essayé de faire, essayer de comprendre pourquoi il y a autant de gens qui ne l'ont pas compris, je pense que ça aurait pu être super intéressant.
Oui, mais parce voilà, que quand tu lis, t'as l'impression que s'il avait été creative director et qu'il aurait pu tout faire, en fait, il l'aurait pas fait différemment, tu vois, pour lui, too much, c'est nickel. Après, nous, comme on se l'est déjà dit, oui, t'as l'impression que vraiment les décisionnaires d'Ubisoft, de toute façon, leur priorité, c'est de vraiment faire l'open world Far Cry 3. Le mec, il écrit ce qu'il veut tant que ça n'interfère pas,
c'est
en
ça.
Fait, avec
et
ça le vrai
pas.
Far Cry 3.
Et ça,
ben, tu sais quoi, tu le laisses faire et on s'en fout, il fait ce qu'il veut. Mais oui, comme tu as dit, on va pas s'étaler dessus. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce qu'il y a quand même, on n'a pas tout cité dans Far Cry 3, il y a quelques petites choses qui sont intéressantes quand même pour réhabiliter un petit peu. On pourra en discuter soit sur le Discord, ouais, ou sinon, je vous renvoie aussi, il y a Louis Ferdinand Sebum, il fait en ce moment d'ailleurs un let's play Far Cry 3 avec des commentaires,
parce qu'il savait que fin du game elle en parle,
et oui, évidemment on l'a influencé, mais bref, et bon, lui pour le coup, voilà, lui c'est, il adhère complètement au message, il soulève toutes les choses intéressantes, et il y en a, mais voilà, nous on a fait un petit peu le résumé de
notre vision. Si tu prends cette grille de lecture et tu la prends vraiment comme ça, et que tu mets un peu, enfin, tu peux toujours interpréter en disant, mais en fait tout colle et machin, mais le problème c'est que, bah voilà, pour 90% des gens, quand 90% de ton audience n'a pas compris ton message, en général, c'est qu'il faut se poser la question sur comment t'as créé ton message.
Far Cry, ça reste une licence qui était pensée pour du public très large, des gens qui sont pas forcément, qui achètent pas non plus 80 000 jeux, qui sont pas sur-renseignés, qui ont pas, enfin tu vois, ça reste un truc grand public. Donc c'est juste un divertissement, comme quand nous on va au cinéma pour voir un Marvel ou quoi que ce soit. Je m'attends pas à avoir tout mon système de valeurs et ma vision du monde qui va être révolutionné à chaque fois que je vais voir un film Marvel. Je sais pourquoi j'y vais, tu vois. C'est pour avoir du pop-corn, des belles images, etc. Mais là, Far Cry, c'était un peu comme ça qu'il était vendu, c'était un gros produit de divertissement, la promesse de la liberté de l'île et du fun, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous pouvez tuer des animaux, vous pouvez balader en wingsuit, conduire des bagnoles, etc. Il n'y avait rien qui nous laissait imaginer qu'en fait c'était une critique de ce qu'est vraiment le jeu. Et ça, c'est un truc moi qui m'avait interpellé, alors je l'avais noté vite fait sur la petite fiche, mais je me permets de faire une mini parenthèse, c'est que je trouve ça assez surprenant, tu vois, que justement un créatif de chez Ubisoft remette à ce point-là en question ce qui reste de sa boîte, existe
ouais, que pour ça, le projet, quoi.
C'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a une vraie remise en question, et a posteriori, je trouve ça ultra courageux d'avoir réussi à maintenir un petit peu quelques lignes et quelques petits éléments cachés ici ou là dans l'histoire du jeu. C'est dommage que ça ait pas fonctionné plus, effectivement, mais c'est, je trouve ça super, super couillu, tu vois, de réussir à tenir un discours aussi négatif sur le truc. C'est dommage parce qu'on s'en rend pas compte, mais voilà, de l'avoir fait, il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant là-dedans.
Et du coup, bah, c'est vrai que vraiment la raison qui fait que pour nous on s'en rend pas compte, c'est qu'en fait l'open world autour et toute la structure et toute la matrice Ubisoft, hein, qui vraiment, comme on le disait en intro, va prendre un nouvel envol en fait avec Far Cry, bah, elle est trop forte, c'est-à-dire qu'elle est vraiment trop bien foutue, trop bien industrialisée, mais vraiment dans le sens en fait précision, il y a vraiment une intelligentsia en fait de faire de l'open world. Et bon, moi je me suis amusé à regarder des conférences sur comment ils ont essayé de faire cet open world, et c'est vraiment intéressant parce que en fait l'histoire d'Ubisoft avant c'est des jeux linéaires en fait. Prince of Persia, c'était des jeux linéaires. Après, ils ont essayé de faire des trucs où il y avait plusieurs chemins avec Splinter Cell. Et en fait, tout s'est un petit peu retrouvé dans Assassin's Creed, hein. Vraiment, Assassin's Creed, il faut bien le comprendre, c'est une bascule, hein, pour Ubisoft. C'est vraiment une licence très très importante parce qu'elle va se réapproprier plein de choses qui ont été faites. Elle va les faire évoluer dans l'open world, et ensuite, en fait, tout ce que va produire Ubisoft, alors pas tout parce que y a Just Dance, il y a des trucs comme ça, mais vraiment les grosses licences Ubisoft, ce qu'ils vont essayer de faire pendant les années 2010, vont naître de ça, vont naître à partir d'Assassin's Creed 2. Et c'est comme ça que va être conçu Far Cry. Et c'est super intéressant parce que il raconte, il y a un des level designers qui raconte justement comment on doit penser le level design, c'est quoi le gros changement qu'on a quand on pense en level design en open world. Et du coup, bah, on doit penser son open world, chaque situation de jeu, on ne peut plus les penser comme des segments que le joueur va traverser de manière linéaire, on doit les penser comme des places de jeu, comme quelque chose dans lesquelles on peut arriver en fait à 360 degrés, parce que c'est ça l'open world, c'est la liberté. Et du coup, bah, c'est plein de petits points d'intérêt qui sont disposés autour d'une map, et de ces points d'intérêt, bah, logiquement, tu peux y arriver de n'importe quel côté. Et du coup, bah, ils ont construit leur jeu, ils sont obligés de repenser leur jeu différemment, ne plus se baser sur quelque chose qui va évoluer très progressivement de manière très linéaire, mais de se reposer sur des systèmes en fait. Et plein de jouets, eux ils appellent ça le toys, enfin tu vois, c'est des toys. Et en fait, Far Cry, c'est un jeu qui est rempli de toys en fait. Et tout est un toy. C'est-à-dire que les armes, c'est un toy, après t'as l'arc, les animaux en fait, c'est aussi des toys, c'est quelque chose qui va te permettre de crafter. Il y a des animaux aussi dans des cages, ça aussi, c'est une espèce de petite idée intéressante de dire, bah voilà, il y a un tigre qui est enfermé dans une cage, il est au milieu d'un camp, bah je vais pouvoir jouer avec en ouvrant la cage et hop, je vais le lâcher au milieu du camp.
C'est vraiment un sens jouer où quand tu le vois, tu te dis, je peux faire quelque chose avec, tu vois, j'ai un truc à faire avec. Ouais.
Et du coup, bah, en fait, le jeu est rempli de trucs comme ça. Il y a aussi le truc qui est hérité vraiment de ce qu'était Far Cry 2, hein, le côté le feu qui va pouvoir se répandre en fait sur les fougères, l'herbe qui entoure souvent. Les champs de bœufs aussi, effectivement. Et ça aussi, c'est un toy. C'est vraiment un petit truc, un petit système. Voilà, l'herbe, elle prend feu avec le vent, elle se propage et du coup, tu peux enflammer et tu peux créer, tu peux subvertir un peu le level design parce que bah, les chemins, tu vas plus pouvoir les prendre, etc. Et c'est tout ça en fait. À chaque fois, c'est des petits toys. C'est la falaise qui est posée au-dessus d'un camp d'ennemis. Ça aussi, c'est un toy parce que tu vas pouvoir prendre de la hauteur et avec ton arc, tu vas pouvoir sniper tout le monde d'en haut. Et en fait, leur idée, c'est de construire tout un monde comme pas un parc d'attractions, mais un bac à jouets en fait. C'est vraiment ça le bac à sable. T'as ton saut, t'as ton râteau, t'as ta pelle et tu vas pouvoir faire des choses différentes avec.
Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, avec la façon dont ils ont construit cet open world et qui va devenir en fait tu l'as dit, la matrice de presque tous les open world qui sont sortis depuis, c'est cette idée qu'il y a plusieurs grands plats, tu vois, il va y avoir des recettes, il y a ouais. le camp de Bandit, la tour Ubisoft, le machin, la course, oui, l'assassinat, la mission chronométrée, etc. Et à chaque fois, ils vont en créer des tonnes et des tonnes de variations pour qu'on ait jamais le sentiment de faire deux fois la même chose. Revoyez s'il y a des vidéos qui existent de YouTube où on monte toutes les tours Ubisoft les unes à la suite des autres dans Far Cry 3, c'est vraiment impressionnant de voir les petites diversités qu'il peut y avoir. Tu as jamais deux fois le même chemin. Une fois, il va falloir grimper sur un truc, une fois, il va falloir passer par une petite forêt de l'autre côté pour pouvoir sauter à la moitié de la tour, etc. Ils ont réussi à créer une grande diversité. Là où ça se ressent le mieux et qui a été un des passages que j'ai trouvé les plus intéressants, c'est les camps de bandits que ouais. tu dois capturer, où là vraiment ils ont construit chaque camp toujours avec la même structure, hein, je veux dire, en plus même visuellement c'est rouge, il y a des grandes bandes, tu ouais. peux pas te tromper quand t'arrives
t'as
près d'un camp.
T'as une zone d'approche ouais. vraiment autour qui est verte, hein, ils le montrent comme ça, c'est vraiment, en fait c'est des petits cercles concentriques avec différentes zones, comme une cible de jeu de fléchettes, hein, tout ouais. simplement. Et du coup en fait bah, chaque bande va correspondre à quelque chose qu'on va faire, c'est-à-dire que la première bande c'est la zone d'approche, donc on se balade, on regarde un petit peu, c'est le moment où dans le jeu on va être dans l'observation. Ensuite t'as la deuxième bande qui est un peu plus dans l'interaction, où tu peux faire un petit peu du stealth, hein, enfin du stealth, de l'infiltration. On va pas parler comme les designer de jeux vidéo, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi ça, hein, dans Far Cry, c'est aussi le fait qu'il y ait plein de choses, qu'on n'est pas que dans un FPS, on est vraiment dans un jeu Ubisoft, dans le sens où il y a de la conduite, il y a de l'infiltration, il y a de l'action, il y a plein de choses. Donc cette deuxième zone dans laquelle on rentre, soit dans l'action, soit dans l'infiltration, et puis la dernière zone, celle qui est au centre, où en général il y a le plus d'ennemis, où c'est là que va se concentrer le feu de l'action, et donc ils construisent à chaque fois comme ça. Ouais.
Oui, ça fait vraiment la recette du jeu, hein, vraiment les camps d'ennemis, d'ailleurs de loin, tu vois de la fumée, hein, vraiment qui sort des camps.
Oui,
tu
peux... c'est vrai qu'il y avait des indices visuels ouais. de loin comme ça, on pouvait repérer les camps d'ennemis.
Et il y a plein d'autres choses qui se repèrent, t'as les fameuses tours, ça, les fameuses tours qui ont même été reprises dans Zelda Breath of the Wild, mais qui étaient déjà du coup présentes dès le premier Assassin's Creed. Et évidemment le crafting aussi, qui était qu'on y adhère ou pas, parce que je sais que mon voisin à ma gauche a
détesté. Mais c'est pas
le
problème du crafting, c'est le fait que tu sois forcé en fait.
Oui.
Donc, je vois que tu me lances sur un truc, mais la particularité de Far Cry 3 comparé à d'autres plus récents, c'est que au début tu peux porter qu'une seule arme, donc t'es obligé en fait d'améliorer jusqu'à un certain, on va dire, un seuil critique ton équipement, et t'es du coup obligé de chasser certains animaux, alors que souvent aujourd'hui la plupart du temps le contenu annexe est vraiment dissocié, en mode tu peux totalement le lâcher ouais. et tu peux faire la campagne principale. Moi ça m'a surpris, parce que du coup je voulais faire le jeu en mode bah j'avance tout droit, parce que je m'en fous un petit peu de Far Cry 3 et je le fais juste pour l'épisode, et en fait je me suis rendu compte que ah bah non, je suis bloqué parce que j'ai qu'une arme, c'est chiant, j'ai toujours pas assez de munitions. Après, ah bah j'ai un arc, bon bah je veux porter plus de flèches, etc. Donc, parce que l'arc est très cool, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment une des armes les plus fun du jeu. Et donc le fait comme ça de nous forcer à interagir avec ce contenu annexe, c'est je pense un truc qu'on a vu dans Far Cry 3 qu'on voit plus depuis, parce que les tours c'est pareil, t'en as besoin pour savoir ouais. où te diriger dans la zone.
Oui,
t'as besoin de libérer des camps de bandits,
ouais,
sinon
parce que
tu débloques pas.
Oui,
et puis tu débloques pas les points de téléportation, ouais. donc t'es quand même assez emmerdé pour la navigation. Donc le jeu. Ne fait pas du contenu annexe un truc vraiment optionnel, il le glisse à différents ouais, moments ouais. de la progression, comme ils le font encore aujourd'hui dans les Assassin's Creed Odyssey Origins, où on le disait en préparation, t'es obligé de gagner de l'XP pour arriver dans une nouvelle zone, sinon t'es sous level, et c'est comme dans The Witcher 3, hein, c'est le même problème, les ennemis sont beaucoup trop forts parce qu'ils ont une espèce de bonus exprès. Là, le jeu, heureusement, n'a pas de progression via de l'XP de cette manière-là, en tout cas, c'est tu vas améliorer ton stuff, tu vas améliorer ton inventaire via le système de craft. Quoi.
Et là, dans Far Cry 3, donc t'as vraiment cette nouveauté qui sont les animaux, hein, ouais. vraiment, il y a des tapirs, des casoars, des coyotes, des requins, des ours, des tigres, enfin bref, il y a 100 zoos qui il y a plein d'animaux qui s'en sont enfuis. Mais ça renforce aussi vraiment l'exploration, tu vois. Moi, j'avais pas été dérangé par ça quand j'avais joué, du coup, j'avais vraiment adhéré en fait à la proposition, tu vois, le crafting, j'étais ouais, OK, je vais crafter et tu as vraiment
portefeuille en peau de requin.
Il te montre sur la carte. Donc déjà, tu as la tour à débloquer pour révéler la carte. Ensuite, sur la carte, tu vois le dessin de l'animal, parce que tu sais toi qu'il faut
de territoire ouais. Et tu sais qu'il te faut du cerf,
c'est ça, si tu veux un plus grand portefeuille ou un plus grand carquois ou machin, tu sais qu'il te faut de la peau de requin ou de la peau de tapir, du coup tu regardes sur ta petite carte où est-ce qu'il y a un requin, où est-ce qu'il y a un tapir, et t'y vas, et puis une fois que tu y es, il faut que tu les cherches parce que ça te montre juste le lieu où
ouais,
ils vivent, c'est ça. Et tu peux te mettre ta petite seringue de chasseur aussi pour les voir un peu à travers les feuilles. Donc il y a ce côté un peu chasseur.
Chasseur-cueilleur.
C'est ça. Qui te pousse vraiment, du coup, à vraiment explorer la map, à te balader un petit peu partout. Et c'est vrai que moi sur moi, en tout cas, ça avait très bien marché.
Ouais. Ça me choque pas parce que vous y avez joué à l'époque. Et ah, tu vois, c'est fou de se dire, c'était il y a que 8 ans. Mais depuis, cette formule-là, on en a soupé, quoi. Enfin, tu vois, la recette de l'open world telle qu'elle a été définie par Assassin's Creed 2 et Far Cry 3, c'est devenu la base sur laquelle tous les autres se sont collés, en fait, hein, ils se sont vraiment mis au diapason avec ça. Et en fait, ça paraît fou de dire ça, mais il y a 8 ans, crafter des trucs dans un jeu comme ça, qui n'était pas un pur RPG, qui n'était pas vraiment segmenté, pur RPG façon Skyrim ou quoi que ce soit, bah en fait, c'était nouveau. C'était novateur, c'était innovant.
Oui, c'est ça.
Cette espèce de diluer comme ça les genres et de les mélanger pour dire bon, il y a un peu d'infiltration, oui, puis il y a aussi un peu de conduite.
C'est plus le genre, en fait. Le genre, ça devient l'open world, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui prend le dessus. Et c'est ça qui est vraiment important, je trouve, avec Far Cry. Parce que, en fait, on pouvait se dire que Assassin's Creed, bah voilà, c'était Assassin's Creed. Mais en fait, là, on se rend compte avec Far Cry que non. Il y a un genre, en fait, qui est né, celui qui renaquit, qui est vraiment né de ce truc-là. Et en fait, on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. On peut y mettre du FPS, n'importe quoi, tout marche parce que la structure est trop forte et trop structurante.
Et d'ailleurs, Far Cry 3 introduit un truc qui n'était pas dans l'Assassin's Creed, c'est un arbre de compétences avec trois spécialisations. Et là, oui, on a vraiment du RPG, alors pas dans le sens roleplay.
Dans Assassin's Creed 2, il y en avait quand même un petit peu. Hein. Tu avais quand même des choses que tu débloquais. Hein. Il y en avait un petit peu quand même.
Ouais, mais pas un arbre de compétences.
Non, c'était pas un arbre triptyque, mais voilà, je précise pour. Donc on sait. Voilà.
Mais là, il y a vraiment la voix du requin, du serpent.
Ce triptyque, en fait, qui va revenir maintenant.
Bah, enfin, aujourd'hui,
c'est une caricature. Ouais, en 2012, c'était le héros, le requin.
Open world, débloquer les différents takedowns, toutes les différentes capacités qui m'ont tellement marqué que là, je peux en citer 4.
Mais alors après, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart n'ont pas d'impact réel sur le gameplay. C'est souvent des choses assez optionnelles.
T'as plus de grenades, t'as plus.
Ouais, c'est des trucs que tu vas pouvoir courir plus longtemps, tu vas pouvoir recharger pendant que tu cours. Donc c'est des choses qui sont assez anecdotiques pour beaucoup de mêmes trucs. Et de temps en temps, t'as une qui est vraiment ultra forte. Tu vas tuer quelqu'un discrètement avec son arme, tu vas tuer une deuxième personne cadeau automatiquement.
Comme ça, hein.
C'est des trucs comme ça, c'est ultra fort. Mais il y en a plein.
Sur les mecs blindés aussi. Ça,
oui, ou sauter sur les types et pouvoir les tuer pendant que tu sautes. Du coup, tu peux sauter sur n'importe quel personnage et ça te permet de le tuer. Ça change vraiment la façon dont tu joues. Mais il n'y a pas, comme dans les versions plus récentes de ces arbres-là, vraiment, il y a tout un tas de caractéristiques. Bon, si tu les prends pas, c'est pas très grave. T'en as plus besoin pour aller chercher autre chose, mais genre, si tu te soignes un peu plus vite, bon, voilà, c'est des choses un peu basiques.
De toute façon, c'est ce qu'on se disait dans la préparation, c'est que c'est vraiment pas un arbre de compétences dans le sens build du terme. Mmh. C'est-à-dire que t'es pas là pour te créer vraiment ton style de jeu. Alors, c'est comme ça un peu qu'ils nous le vendent, hein, mais bon, ça, c'est un peu de la poudre aux yeux, parce que la réalité, c'est que déjà, t'as largement de quoi. À la fin du jeu, t'auras quasiment tout débloqué, à moins que tu rushes vraiment tous les trucs principaux. Mais bon, t'es quand même obligé d'aller un peu faire le tour, donc t'auras débloqué une grosse majorité. Et en fait, c'est beaucoup plus un système de progression. C'est vraiment beaucoup plus une façon de segmenter ta progression et de te dire que voilà, à chaque heure, t'auras quand même un sentiment de progression. Tu seras un petit peu puissant que l'heure d'avant, et c'est vraiment à ça que ça sert.
Il y a
en fait
ton tatouage qui va s'agrandir sur ton bras.
C'est un feedback trop con. Mais pour un FPS, moi je trouve que te faire le truc qui est un des rares trucs que tu vois sur ton personnage, qui est ton bras, le fait d'avoir un feedback visuel de ce tatouage qui se remplit sur ton avant-bras et qui te montre ton gain de puissance, moi je trouve que c'est des petits trucs malins. Moi il y a un truc aussi que j'avais beaucoup aimé comme petite animation dans Far Cry 3, c'était quand c'est ta dernière petite vie, t'as plus de potions, il se remet un doigt. Ou un truc comme ça, où tu sais, parfois il y a une branche.
Il se met une branche, genre dans la blessure de la balle, et pop.
Il se la pop.
Oui, c'est vrai que les animations pour se soigner, elles sont assez.
Qui étaient très sympas. Et ça, je trouve que moi, ça rajoutait un plaisir de jeu que j'ai pas toujours dans les FPS, qui me manque un peu, c'est justement l'animation, le fait de sentir qu'on a quelque chose de physique, en fait, entre les mains, qui est pas juste une caméra qui a un flingue. Et là, je trouve qu'il y avait des petits moments où on sentait bien, et je trouve qu'Ubisoft savait très bien faire ce genre de choses.
Je crois que c'est déjà dans le 2.
C'est possible, je le dis comme ça.
Les soins, de toute façon, dans le 2, il y a un côté très
survie, très brut,
assez crado.
Le côté s'enfoncer la branche dans la main, je me demande s'il n'y a pas déjà dans le 2.
Tu te fabriques, tu vois, tu vas te remettre l'os limite qui sort. Bon, je le remets, tu bandes, tu crames ça vraiment en man versus wild.
Je trouvais que tous les feedbacks en fait des armes, même l'arc, le fait quand tu bandes l'arc et qu'il lâche, il y a vraiment le petit son là qui part bien, la petite courbe qu'elle fait, c'est top. J'aime beaucoup aussi, tu sais, le takedown dont tu te parlais là, quand tu tues un mec au couteau et que tu vas lancer ensuite un couteau sur un autre. Je sais pas, il y a une science de l'animation que, pour moi, dans un FPS, quand t'as des petits trucs comme ça, des petits bonbons visuels et sonores comme ça, qui sont très très importants.
La gestion de la caméra dans ces moments-là, elle est ultra bien faite.
Ouais,
parce que tu perds pas. Moi, ce que j'avais trouvé ouf, parce que c'est très dur, c'est toi, tu es déjà en train de suivre quelqu'un et tu ne perds pas ton orientation. Tu sais toujours où t'es, il n'y a pas un mouvement qui va te donner la gerbe. Mais par contre, tu sais que t'as tué deux gars et tu peux enchaîner.
Et puis en plus, il le fait un peu de manière automatique, mais c'est quand même très plaisant en fait.
Ouais, ça marche super bien.
Voilà, tu tues deux mecs à distance, il y a le petit lancer de couteau qui est un feedback. Qui est chouettos. Bon, c'est vrai que moi, de toute façon, les jeux comme ça où il y a des armes blanches, c'est quelque chose que j'aime plus, les armes blanches que les flingues. Du coup, c'est vrai que l'arc, moi, j'ai passé ma vie avec l'arc, les flèches de feu, les flèches explosives. Après, c'est vraiment Rambo.
C'est vrai que c'était la grande période des arcs dans les jeux vidéo.
Oui,
hein. Il faut rendre hommage à ces quelques années de Crysis, Tomb Raider, Horizon, des jeux où il y avait
des arcs. Dans les jeux vidéo,
C'est qu'à un moment, c'était le truc, tu vois. C'était même la communication de Crysis 2, c'était il a un arc.
C'est ça.
C'était là, genre, il a une combinaison qui lui permet de faire des bonds 80 mètres et ta nouvelle innovation c'est il a un arc, bon bah pourquoi pas, mais de toute façon voilà, je pense qu'il faut avoir vécu de plein cœur, tu vois, cette période 2010-2012 parce qu'on en bouffait tout le temps quoi. Il a vraiment même dans Assassin's Creed 3 c'était sa grande truc, il pouvait chasser
mais
les lapins,
j'y ai même pas pensé, mais
il
c'est
avait
vrai,
un arc, c'était sa nouveauté à Connor.
Le truc très cool aussi, on l'a déjà évoqué un peu, tous les animaux et tout, mais il y a tout cet aspect systémique où ils peuvent attaquer aussi des ennemis, notamment c'est quand on a dit il y a des animaux en cage, il suffit de tirer, c'est un peu cartoon, il suffit de tirer dans la cage, ça s'ouvre et le guépard, tu vois, il est lâché dans le camp.
En fait, c'est un plaisir ludique vraiment enfantin, c'est pour ça que j'aime bien l'idée des toys, parce que c'est des jouets quoi, c'est vraiment un jouet, cette espèce de cage, je le laisse faire et il va faire son
et
truc,
tu regardes
pendant
ce qu'il
que
fait,
toi tu canardes au milieu et t'as une espèce de subversion du camp d'ennemi qui est super intéressante à vivre.
Et d'ailleurs, ça avait tellement bien marché cet aspect là que ça a été repris fois 1000 dans Far Cry 4, parce que une grosse partie
éléphants.
De la communication,
les
c'était les fameux éléphants que tu pouvais envoyer pour détruire, tu pouvais
monter
dessus, enfin c'était une partie de la com de Far Cry 4, c'est vraiment Far Cry 3 plus quoi.
Ouais. Et t'as même un moment, puisqu'on l'évoque, t'as des moments dans Far Cry 4 où tu replonges dans des espèces d'histoires un peu je sais plus, mythologiques ou quoi, et t'as un tigre à côté de toi que tu peux envoyer du coup sur des ennemis, et je pense que c'est le proto de Far Cry Primal, finalement ils reprennent cette mécanique. Mais oui, du coup, comme on l'a dit, Far Cry 3 au final c'est pas un genre vraiment défini, c'est le genre open world d'Ubisoft,
c'est un jeu Ubisoft. Voilà. En fait, c'est vraiment ça le genre de jeu que c'est.
2012, on l'a dit, à l'E3, il y a Watch Dogs qui est présenté. Bah, ce sera encore un petit peu une version TPS slash un peu plus GTA-like, en tout cas dans l'apparence, toujours.
Mais il y a toujours cette rhétorique de la tour, de débloquer telle zone, etc. En fait, t'as cette espèce de routine qui t'impose vraiment. C'est plein de boucles gameplay, en fait. C'est plein de boucles macro et micro. T'as les boucles très micro, genre la chasse. Et puis t'as la boucle macro de dire j'arrive dans une nouvelle zone, je débloque la tour, je fais les camps. En fait, tu rentres.
On n'en est pas sorti, tu vois.
On n'en est pas encore sorti
hein, de cette logique-là, parce que évidemment, on encense Zelda Breath of the Wild et a raison, on en avait parlé dans l'épisode, il faisait des choses très nouvelles ou en tout cas mieux, mais ben, le truc de la tour, ils se sont dit bêtement, mais en fait c'est génial, parce qu'effectivement, c'est un truc que tu vois de super loin, ça te permet de détecter tous les points. Tu vois, moi j'aimais beaucoup par exemple cette cinématique qu'on avait dans Far Cry 3 quand tu débloquais une tour, où ils te montraient 3-4 points chauds de la zone, avec des trucs optionnels la plupart du temps, et un endroit où tu allais avoir une mission principale, et tu voyais les zones à visiter, et ben, ça te donnait tout de suite envie de te dire, bah oui, là moi je trouvais que c'était chiant la montée de la tour, mais en haut j'ai une petite récompense en disant, bah tu peux aller visiter ça, là il y a une tombe, là il y a une grotte, là il y a une caverne, là il y a une, je sais pas moi, une carcasse de bateau qu'il faut aller visiter, etc. Bah tu disais, bah tiens, bah, je vais aller faire ça, je vais aller me balader, et ça t'invite à avancer.
La subtilité de Zelda, c'était toi en fait qui choisissais, c'est-à-dire que c'est pas le jeu qui te montrait où aller, c'est que toi tu te mettais autour de la tour et tu scannais un peu toi-même le paysage pour trouver toi-même tes points d'intérêt.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, c'est vrai que pour moi, en fait, c'est ça en fait, c'était ça la micro-révolution, c'est que c'est un tout petite nuance, c'est que oui, c'est des tours d'Ubisoft, mais en fait, ce que tu fais en haut, c'est toi qui choisis. Et pour moi, elle se faisait là la différence pour Zelda. C'était que c'était moi qui étais décisionnaire, en fait, de se dire c'est moi qui cherchais à savoir où j'allais aller. Pour moi, c'est là la différence.
Parce que dans Assassin's Creed, quand tu montes dans les tours, dans les premiers épisodes, dans les récents, je me rappelle plus comment c'est
foutu. Oui, ça tournait autour.
Mais en fait, ça fait que te montrer.
Oui, c'est ça.
Ça ne sert à rien.
Non, ça
ne
servait pas.
Ça t'importe rien.
Visuel, ouais. C'était juste, un petit plaisir. Regarde comme il est cool. Il a une capuche et il pense sur un truc au milieu du vide et il est trop cool. Et après, tu fais. et tu plonges dans le fond et c'est trop bien.
Ouais. Non, mais je trouvais que ça apportait rien. Alors que oui, là, dans Far Cry, ben, en fait, t'as une vraie récompense parce qu'on te dit, ben, voilà, tu vas pouvoir explorer, tu es dans une nouvelle zone de jeu, il y a un nouveau truc, et tu voyais, en fait, l'évolution. Parce
c'est
que comme
un trailer
sur une île,
de ce que t'allais
exactement,
faire. En fait.
Non, mais exactement, c'est ça, c'est du trailer, ça marche bien cette idée.
T'es un peu obligé de le faire aussi, puisque la carte est pas du tout dévoilée. Ouais. Et t'as même sur la minimap, t'as, bah, comme Zelda, vraiment comme Zelda.
Oui, tu vois pas très
sur
bien.
Sur la minimap, il y a rien. Non, sur la minimap, il y a rien, tu vois, peut-être une route vite fait, mais vraiment, et t'es obligé de débloquer la tour pour voir sur la carte. Et pour info, je me suis sacrifié pour cet épisode. J'ai joué à Far Cry 5.
Gratuit le week-end dernier.
Je l'ai acheté.
C'est vrai ? Avant ?
Bah oui, c'était avant le week-end gratuit. Putain, j'ai dépensé 5 euros parce que j'avais le coupon de 10 euros sur Epic Games Store. Bref.
Ok. Tout va bien.
Oui, sur Patreon, ça va. Voilà. J'ai joué 8 heures. Hein. Ils ont enlevé les tours. Il s'en moque d'ailleurs. Au début, tu as une tour que tu montes qui te dévoile un peu le truc. Après, il dit non, mais t'inquiète, t'auras pas à le faire, c'est juste celle-là. Il doit dire un truc du style ce serait chiant si tu devais tout le temps le faire. Et du coup, c'est moins bien.
Enfin, voilà,
moi, j'aime bien les tours. En fait, on en rit beaucoup parce que oui, c'est running gag, mais en fait, ouais, moi, j'aime bien cette mécanique.
Mais surtout
que
c'est
tour,
pas le seul à l'avoir pris. Enfin, je veux dire, si on devait faire la liste des jeux qui l'ont repris, Horizon, Dying Light le faisait aussi.
Mais de toute façon, parce que de toute façon, dans un open world comme ça, tu as besoin à un moment de prendre de la hauteur pour pouvoir avoir un indice visuel, pour pouvoir voir ce qu'il y a autour de toi. Donc, c'est vraiment un point, vraiment, j'ai envie de dire, spatial, en fait, qui est besoin de nous mettre de la hauteur. Après, tu vois, t'as des jeux comme Arkham City où là, bah, c'est des grands immeubles ou des trucs comme ça et tu virevoles, donc il n'y a pas besoin de mettre des tours finalement.
Non, parce qu'il y en a partout.
C'est pour ça que c'est débile qu'il y en ait dans Spider-Man, mais bref, c'est un autre débat.
Après, on a Far Cry 4, il y avait aussi donc toujours ce système de tours, et t'as des espèces de petits, de mini hélicos individuels,
ouais,
et tu pouvais monter sur les tours avec.
C'est vrai aussi.
Après, moi, il y a ce plaisir de mémoire, hein, quand j'avais fait le 4, il y avait ce côté, allez, là je me fais une tour à la régulière, tu vois, et celle-là, j'ai la flemme, hop, je monte avec mon petit.
De toute façon, c'est le prémisse un peu du jeu à la carte, en fait, c'est le prémisse un peu du jeu service, de dire, bah voilà, j'ai plein de petites activités, de trucs que j'aime bien faire, et après voilà, t'as fait quelques quêtes principales, ensuite tu vas faire quelques quêtes annexes, tu fais ton truc, que t'as, enfin tu te fais un peu ton truc à la carte.
Far Cry 5, c'est complètement ça, il y a une espèce en fait de confusion,
même
il y a un peu une confusion en fait entre guillemets entre quêtes principales et quêtes annexes, puisque en fait pour vraiment progresser dans l'aventure il faut juste atteindre un certain nombre d'XP en gros. C'est pas vraiment ça, mais il faut genre 1500 points XP, sauf que bah t'en as en faisant des quêtes annexes, en faisant des quêtes principales. Les quêtes principales elles ressemblent au Katanek, donc c'est juste tu vas faire un max d'activité pour remplir la jauge, en fait,
max d'activité,
c'est ça, pour remplir la jauge, et voilà, et ainsi de suite, et voilà, c'est pour ça que je n'y ai joué
mais
que 8 heures.
C'est ce qu'on a dit, c'est qu'en gros Far Cry 3 il pose en fait les bases de tout un pan du jeu vidéo qui va durer et qui, dans lequel on est encore, hein, parce qu'on n'en est pas encore sorti, donc on verra à l'avenir si les autres open world y changent un petit peu, mais en tout cas ça pose ce truc là et le truc c'est que Ubisoft en fait, malgré eux, malgré cette super bonne idée, ils vont s'enfermer dans ce schéma là et finalement ça va leur jouer des tours, puisque sans faire exprès de faire un jeu de mots là-dessus, mais ça va vraiment leur retomber dans la tronche, parce que à force de refaire cette recette là, les gens, il va y avoir une certaine lassitude et il y a un manque de remise en question de cette structure là parce qu'on la retrouve partout.
Exactement, il y a déjà deux choses, c'est qu'en plus tout leur jeu en fait, comme il y a des ponts et comme ils utilisent toute leur structure, tu peux même te dire que entre jouer un Watch Dogs et jouer un Far Cry, il y a déjà en fait une forme de répétition, c'est-à-dire que tu joues quand même un petit peu au même jeu, même si c'est du TPS, il y a de la conduite.
Ouais.
Tu peux changer des petites choses, mais la recette, la structure en fait, le gros cadre du jeu, il est tellement fort que c'est toujours le même, donc t'as déjà ça. Et puis après, c'est intéressant parce que Far Cry en fait, lui, il va connaître la trajectoire accélérée de
Assassin's
Creed, qu'il a connu Assassin's Creed, c'est-à-dire qu'Assassin's Creed, lui, on s'étale sur 15 ans. Là, on a déjà connu l'espèce de reboot, révolution, c'est-à-dire qu'ils sont la série est déjà dans sa deuxième phase. Mais ça s'est étalé sur assez longtemps quand même, parce que le premier c'est 2007, là on est en 2020, alors que Far Cry, vraiment, il y a les deux premiers, mais c'est pas vraiment cette recette-là. Dès que cette recette va arriver, elle va être complètement...
Le 4, c'est moins de 2 ans après, je crois.
C'est
vraiment la même chose, plus. C'est vraiment more of the same, il n'y a pas de différence, il n'y a aucune remise en question, et en fait, dès le deuxième épisode de cette recette-là, dès Far Cry 4, tu te dis, ça y est, on en a déjà trop. Et en fait, arrivé à Far Cry 5, alors en plus, il y a eu Primal qui a pas forcément très bien fonctionné, mais il y a eu tous les choix au niveau de l'univers de Far Cry 5 qui sont ultra discutables. Mais en prenant le jeu pour ce qu'il est, tu sens qu'ils essayent de changer quelque chose, mais de ce que vous me disiez, on en parlait pendant la préparation, en fait, Far Cry 5, ça a été un échec, entre guillemets.
Oui, selon Ubisoft, hein, l'année de sortie, en tout cas, de Far Cry 5, c'est considéré comme un échec. En interne, Far Cry 5, c'est un échec. On connaît pas trop commercialement, on sait qu'il s'est au moins vendu à 10 millions d'exemplaires depuis. Mais sinon, voilà, d'un
point de vue critique, en termes d'investissement, ils ont dû
déjà d'un point de vue critique, il y a, voilà, y a une chute. Voilà, c'est ça,
on est parti à 90,
80, 70, et ouais, voilà, on descend. Et je crois que le dernier, là, l'espèce de spin-off,
New
Dawn,
il est à 60.
Il n'existe même pas. Moi, je me souvenais même plus que ça était sorti.
Mais il est sorti. Alors, moi, pour l'anecdote, il est sorti en même temps. J'ai pas fait de je t'ai piqué ta phrase à toi, je suis désolé. Il est sorti en même temps que Rage 2, et c'est les deux jeux qui utilisaient beaucoup le violet et le mauve fluo, etc. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai confondu les deux jeux. Je pensais que c'était le même jeu et je voyais un trailer et je me disais tiens c'est marrant, ça a un peu changé.
Rage 2 d'ailleurs qui lui-même a subi en fait le fait que Far Cry se répète parce que
c'est la même structure, ils n'ont pas du tout cherché à modifier quoi que ce soit. Mais des tonnes de jeux en fait, c'est toutes les années 2010, il y a eu les l'ombre de la guerre, l'ombre du Mordor, The Witcher le reprend un petit peu, il y a eu Batman, Spider-Man, Horizon, Days Gone, voilà. Si on devait reprendre de l'open world, c'est ça qui est rigolo, c'est que comparé au nombre de FPS qui sont sortis ou nombre de, je sais pas, de jeux de cartes ou de jeux solitaires ou de tower defense, c'est rien du tout. Mais comme c'est des jeux qui font date à chaque fois, ces open world, ils sont tellement mis en avant. Comme c'est forcément des blockbusters, il y a eu cette espèce de fatigue et de lassitude qu'on peut ressentir. Et à un moment donné, tu vois, que la communication très récemment autour de Ghost of Tsushima, c'est regardez, il n'y a pas d'interface. Genre, waouh, on va arrêter de vous saouler. On a compris ce qu'avait fait Zelda. On va essayer de nous aussi copier un petit peu cette approche plus libre où on remet un petit peu de souffle d'aventure dans cette histoire-là.
On a tous entendu la phrase « c'est un jeu Ubisoft ». Ouais. Et en fait, tu comprends. Enfin, tu comprends déjà. Si tu vois la caméra, juste le shooter, et qu'on te dit c'est un jeu Ubisoft, bah c'est bon. Tu sais à peu près.
Oui, parce qu'en plus, il y a une espèce d'unicité dans les directions artistiques. Tu vois, à chaque fois que je les vois qui montent des images de toutes leurs licences, mais comment tu fais pour différencier un jeu Ubisoft d'un autre jeu Ubisoft, quoi? À part ceux qui se passent dans l'histoire.
Il y a les époques.
Mais quand tu vois Ghost Recon, Splinter Cell, Watch Dogs, machin, et que tu montres des types The Division et que tu vois des soldats, mais je sais pas les différencier. C'est tous les mêmes. Tu vois. Mais c'est en fait, c'est à la fois leur force, c'est-à-dire cette capacité à produire des jeux à très grand budget, avec des ambitions folles, très rapidement, avec un certain seuil de stabilité et de qualité qui est inégalé. Je veux dire, ils sont capables de sortir des jeux. Il n'y a pas d'autre studio dans le monde qui peut te sortir la même année un Watch Dogs, un Far Cry, un Assassin's Creed, etc. Eux, ils sont capables de le faire. Mais évidemment, le revers de la médaille, c'est que du coup, il y a une espèce d'unicité. Tu vois, il y a un côté, malheureusement, McDo, t'as mangé dans un fast-food, t'as mangé dans tous les fast-foods. Ça, c'est un peu dommage.
Et c'est encore pire à l'époque du jeu service, puisque tu vois Ghost Recon Wildlands, par exemple, qui était designé pour durer plusieurs années. Quand ils ont sorti l'autre, t'as toujours des gens qui jouaient à Wildlands, et du coup, il faut pousser les gens à transitionner vers l'autre parce qu'ils y jouent encore. Donc, non seulement il y a une unicité, mais il y a une vraie concurrence permanente, en fait. Ouais. Sur 5 ans, tu vois, les jeux qui sont sortis l'année 1, ils sont en concurrence avec les jeux qui sortent l'année 3, 4, 5.
C'est un des problèmes. C'est-à-dire que le jeu service est appliqué à des jeux solo. C'est un truc qui a été, je pense, assez mal compris. Je pense que dans quelques années, on pourra faire un post-mortem un peu plus efficace là-dessus. Mais Assassin's Creed Origins, typiquement, quand il y a eu tout un tas de contenus annexes qui sont sortis, et c'est un jeu qui te pousse à jouer très longtemps en termes de contenu. Assassin's Creed Odyssey, tu vois, on est sur du 150, 200 et quelques heures si tu veux faire le tout, quoi.
Le farming d'XP, il est réel, hein.
Bien sûr.
Il y a des moments, en fait, t'es obligé de te taper des trucs que t'as pas forcément envie de faire juste pour avoir le niveau suffisant pour aller à l'endroit où tu veux aller, hein. Donc, clairement, et ils vendent de l'XP.
Vendent de l'XP, ils te vendent des cosmétiques, des machins. Donc, ils veulent que tu t'investisses dans ce genre de jeu, mais ça fonctionne quand c'est un Destiny, quand c'est un Warframe, quand c'est un Path of Exile, parce que c'est des jeux qui ne changent pas. C'est les mêmes depuis 6-7 ans et ils ont pas bougé. Mais là, comme tu dois en racheter un en plus, forcément, il y a une espèce de une opposition en fait entre ces deux, je pense, ces deux objectifs. Bon, on s'est un peu éloigné
de toute façon. Enfin, c'était aussi un petit peu l'objectif de cet épisode. C'est ça qui est intéressant, c'est de revenir quand même sur le parcours d'Ubisoft. C'est quand même la première fois en presque, allez, non pas deux ans de fin du game, mais bientôt on parle d'un jeu Ubisoft. Hein, alors
c'est
que
36e épisode,
alors que c'est un acteur, mais tellement important en fait. Mais même pour comprendre en fait à quoi ça ressemble le jeu vidéo aujourd'hui, et Far Cry 3 pour moi, c'en est un bon exemple en fait. Tu comprends dans ce jeu, tu vois déjà tout ce qui va se passer pendant longtemps, et surtout tu comprends en fait à quel point Ubisoft a... Enfin, je sais pas, c'est eux qui ont dessiné le AAA, quoi. Vraiment, c'est eux qui ont imposé ce qu'on faisait, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'en 2012, ils étaient au top, et que le 3, moi, je m'en souviens vraiment de, encore une fois, je reviens sur ce 3, je me disais, c'était la conférence que j'attendais, parce que c'était eux, en fait, qui étaient au lead, même s'ils allaient déjà être dans leur démarche industrielle, c'était eux qui étaient au lead, et c'est eux qui façonnaient ce à quoi on avait envie de jouer, c'est eux qui avaient la promesse entre leurs doigts de dire, bah, je vais vous faire vivre, vous faire voyager dans des mondes.
C'est ça.
Et ça, ils y arrivent toujours.
C'est un truc sur lequel je trouve qu'ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent, en fait, même en étant aussi uniformisés, mainstream, lycée, etc., tu sens qui prennent quand même des risques entre guillemets et qui vont explorer des nouveaux trucs, parce que Call of Duty, bon bah t'attends pas la conférence d'Activision, c'est un nouveau Call of Duty, on en est à Call of Duty 17, super, voilà, et en plus on commence à faire des reboots de reboots. Assassin's Creed, j'ai regardé, on est à 23 épisodes et j'attends quand même Valhalla, tu vois, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire pour me différencier et pour me retenter, alors que je sais que Origin Odyssey, je suis jamais allé au bout, mais ils ont ce truc-là. Et ce que j'aime bien avec Ubisoft, c'est que justement, ils ont eu... Alors, il y a eu, après Assassin's Creed Unity, Syndicate, ils ont eu cette phase vraiment de remise en question où ils ont mis les séries en pause et tout ça.
Mais ils y sont toujours, hein, aujourd'hui.
Et ils y sont encore aujourd'hui. Ils ont tout décalé. Ouais. Je pense qu'ils ont eu raison de faire ça. C'est qu'ils ont quand même cette flexibilité intellectuelle de se dire on est capable de prendre un peu de recul pour mieux revenir. Mais t'as l'impression qu'à chaque fois qu'ils le font, bon bah ils retombent très vite dans leur travers parce que il y a cette machine, en fait, hein, tu sais, c'est un peu une usine, ils sont capables.
Oui, c'est un paquebot qui est difficile à faire bouger le cap. En fait, en 2012, ils montraient le cap, ils disaient voilà, on va là, et en fait aujourd'hui, bah c'est encore le bout du bateau qui se traîne dans le même cap, quoi, parce que ils arrivent pas à changer vraiment de cap aujourd'hui.
C'est parce que leur vision des choses, c'est pas tant de faire des jeux que de faire des franchises. Vraiment, eux, quand ils font un jeu, ils vont vouloir le décliner, vraiment faire une franchise. Là, tous les jeux qu'on a pu citer récemment, je passe The Division, bah ouais, ça a été designé pour faire une franchise. Il y a le 2 qui est sorti.
C'est de créer des vaches à lait, des produits forts. Parce que... Et en fait, ils lancent plusieurs hameçons, ils disent, voilà, lequel va prendre.
Mais parce qu'ils se sont construits dessus, tu vois, Assassin's Creed, et ensuite Far Cry, et comme on l'a dit, Far Cry, dès que ça a marché, mais même pas deux ans après, le 4 il sort, c'est une déclinaison, tu vois. Et
Assassin's Creed, Origin et Odyssey, tu vois, Origin, c'était vraiment la remise en cause de Assassin's Creed. Odyssey, on reprend l'interface exacte. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de couleurs qui changent, c'est les mêmes menus, c'est les mêmes manières d'afficher les éléments, il y a plein d'objets, parce qu'ils se sont dit, bon bah ça y est, ça a marché, on a réussi à changer un peu la formule, vous nous copiez ça. Et donc c'est intéressant, tu vois, d'attendre, je pense, un prochain Far Cry, parce que je me dis, bah là, après
là,
l'échec,
crise, voilà. Là,
à chaque fois qu'il y a un échec, c'est là où ils reviennent plus fort, tu vois, c'est des Saiyans un petit peu, hein, et au bord de la mort, ils deviennent un petit peu plus forts, et du coup je suis curieux de savoir ce qu'ils vont apporter, parce que comme tu l'as dit, et là-dessus, je n'y avais pas forcément réfléchi, mais je trouve ça très juste, c'est vrai que c'était eux qui donnaient un peu le là des AAA, parce que Sony dans leur coin ou Rockstar, finalement, ils font des coups d'éclat, mais sur le côté très grand public, très lycée, la vision du jeu vidéo dans le monde, tu vois, des gens qui n'y jouent pas, Ubisoft, ils ont une place centrale.
Quand t'as le budget de t'acheter plusieurs jeux par an, tu vois, plusieurs AAA par an, bah oui, Ubisoft, c'est un incontournable, parce que même si on peut citer Red Dead Redemption 2 ou Witcher 3, tu regardes sur les forums, les gens, ils disent, est-ce que je prends Assassin's Creed Odyssey, est-ce que je prends Red Dead Redemption 2, Witcher 3, même si c'est des jeux qui sortent tous les 5 ans, ils sont en concurrence, sauf que l'année d'après, ils seront en concurrence avec Valhalla, ils seront en concurrence avec le nouvel Assassin's Creed. Donc, de toute façon, ça s'arrête jamais. Tous les ans, les joueurs se posent la question du lequel je prends.
C'est vraiment un faiseur de jeux populaires, en fait. Mais pas au sens vraiment... vraiment au sens bon du terme, quoi. C'est vraiment des gens qui font des jeux pour un maximum de gens. Et clairement, je pense que nous, qui consommons beaucoup de jeux vidéo, et d'autant plus de jeux qui se sont basés sur le modèle qu'ils ont fait, forcément, on peut peut-être... Moi, je suis vraiment en rejet, hein, en ce moment, de cette formule open world. C'est physique, quoi. Je peux plus. Ça m'énerve. Spider-Man, j'ai joué 4 heures, j'ai fait OK, c'est bon, stop, j'en ai marre. Mais par contre, ouais, ils arrivent à faire des jeux qui parlent à beaucoup de monde. Et surtout, moi, je trouve qu'il y a un truc qui réussit toujours, c'est à faire des mondes qui te donnent envie, quand même, malgré tout, d'aller y jeter un œil, tu vois. Parce que déjà, à l'époque d'Assassin's Creed, les reconstitutions, elles étaient dingues, franchement. Aujourd'hui, ils font toujours des trucs de fou avec l'Égypte, avec la Grèce. Far Cry, malgré tout, quand ils nous envoyaient au Tibet, ou ouais, c'était ça.
Moi, le 4, j'ai vraiment. Comme j'ai pris Far Cry 3 au premier degré, le 4, j'ai pris au premier degré. Moi, j'en voulais plus et c'était parfait. Hein. Et l'environnement, j'ai adoré. Ouais.
Donc, il y a toujours cet argument-là. Et finalement, si tu cherches un peu de l'escapisme dans le jeu vidéo, bon, peut-être que t'as des horizons qui vont peut-être te faire rêver un peu plus, mais en vrai, t'auras toujours ta dose. Hein,
tu vois, moi, je suis en l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu tant que ça en fait d'open world. J'ai beaucoup joué, en fait, de m'y fatiguer. Et là, j'ai l'impression d'avoir le bon mood pour les découvrir. Et là, j'ai vraiment kiffé avec Horizon. Mais tu vois, j'ai relancé les Assassin's Creed et je leur trouve tout un tas de qualités qu'il y a 6 ou 7 ans, ça me sortait par les yeux parce que j'avais l'impression d'en bouffer tout le temps. Mais c'est parce que j'étais peut-être aussi dans le délire de. Bah, j'étais aussi dans l'actu, j'étais dans une rédaction, donc que j'en bouffais de la news à longueur de journée, du communiqué de presse.
Que on là, pas exposé de la même façon.
Voilà, ouais, il n'y avait pas cette même exposition. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ben, quand tu repenses, en final, là, on rejoint à Far Cry 3, je me suis dit, mais c'est en fait, tout ce à quoi j'ai joué depuis, finalement, ça venait un peu de ça. Tu vois, tu sentais qu'il y avait des trucs qu'eux, ils allaient mettre en place. Ben, on les a bouffés d'une manière ou d'une autre, plus ou moins maligne, souvent plus maligne que ce que c'était dans Far Cry 3, mais ils posaient une base, quoi. Ils posaient une espèce de socle sur lequel tout le monde a reconstruit.
En tout cas, tu vois, quand Hugo disait que c'était des jeux populaires, en fait, tu le vois vraiment, parce que nous, on a notre cercle de discussion, tu vois, on a notre discours, un peu notre cercle d'initiés, entre guillemets, mais il y a plein de différents cercles. Mais en fait, tout le monde a une opinion, je pense, sur Ubisoft aujourd'hui. Tout le monde, en fait, peut parler des jeux Ubisoft, tout le monde
parce
a
qu'on
senti...
a forcément quasiment tous joué, enfin, c'est très difficile de passer à côté d'eux, en fait. Ils sont incontournables dans le paysage vidéoludique.
Ils tapent dans plein de trucs. Ouais. Je veux dire, la même année, ils te sortent un jeu avec des voitures, ils te sortent For Honor, ils te sortent Steep, qui est un jeu de snowboard, il n'y en a plus des jeux comme ça, tu vois. Ils te sortent The Crew, ils sont capables de taper dans plein de domaines différents, et à chaque fois, ben, ils essayent d'avoir un certain niveau de qualité, mais du coup, le sacrifice qu'ils font, ben, c'est sur le ton, sur effectivement la prise de risque, etc., parce que tout est maîtrisé pour justement éviter qu'un jeu coûte trop d'argent parce qu'il se plante, quoi.
Oui, et puis
ils veulent garantir,
ils ont des systèmes de production, des deadlines, des machins, donc il y a un côté très très carré, les équipes elles roulent, elles passent d'un jeu à un autre, etc.
Puis
donc...
le fait d'avoir comme ça des studios à travers le monde, c'est que bosser 24 heures sur 24,
management à gérer,
le
chaos,
producteur, ils ont leur pôle vraiment production en interne, et c'est un pôle super important. C'est aussi l'occasion quand même de rappeler que apparemment, tu vois, chez Ubisoft, justement, il y a toute cette expérience côté industriel, entre guillemets, et ça crunch pas trop, en tout cas, ça ne vire pas ses employés après avoir terminé le jeu.
C'est vrai que là-dessus, on le dit pas souvent, mais ils sont quand même assez clean. Hein,
ils se sont énormément remis en question à l'époque de l'achat de Vivendi. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, mais ils ont communiqué là-dessus de manière assez positive. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait le We Are Ubisoft où on voyait avec le We Believe, il y avait Yves Guillemot qui attendait. J'ai pas le sentiment, en tout cas, que c'était juste de l'esbrouf. C'est-à-dire que tu le sens, et puis quand tu discutes avec des gens qui ont bossé là-bas, il y a eu quand même vraiment une espèce de remise en question de leur façon de produire, de travailler, et de se dire, bah, on a besoin de ces talents-là. Et puis, bah, s'ils sont. De toute façon, n'importe où dans le monde, tu risques de bosser chez Ubisoft. Je veux dire, quand t'es aujourd'hui dans une école de jeux vidéo, il y a de grandes chances que tu termines chez Ubisoft pendant quelques années, et après, tu vas aller ailleurs. Parce que, bah, voilà, ils sont partout, quoi.
Et même, ce qu'il faut aussi signaler, quand même, c'est tout ce qu'on dit là, les reproches qu'on peut faire à Ubisoft, ils en sont parfaitement conscients. En fait, tous les gens qui designent là-bas, ils jouent à des jeux, ils savent très bien sur quoi ils travaillent, et ils s'en rendent bien compte, en fait. Mais c'est vrai que quand t'as un énorme paquebot comme ça à jouer, t'as pas forcément de grosses marges de manœuvre, il faut arriver à prendre du recul, il faut arriver à prendre du temps, mais voilà, il y a des gens à faire bouffer, hein. C'est-à-dire que quand t'as une armée de 4000 développeurs, enfin, faut feed the beast, hein, comme on dit dans le jargon créatif, faut donner du taf à tout le monde, et voilà, c'est un gros truc, quoi. Mais ils en sont conscients, ils réfléchissent, et je pense que t'as des jeux comme Beyond Good des niveaux 2, des trucs comme ça, où là ils...
Bah, de toute façon, ils ont des petites soupapes, voilà, tu vois, ils avaient essayé avec les, comme on avait dit, Grom, Steep, quelque part, c'était un peu un trip qu'ils avaient laissé à Ubisoft Annecy de partir dans leur délire. Là, il y a Gods and Monsters qui va partir là-dedans. Un jour ou l'autre, peut-être qu'on entendra de nouveau parler de leur jeu, là, avec les bateaux, ou qu'ils se tapaient dessus. Bon, a priori, ça...
Ouais,
je pense que ça va être un peu
annulé. Comme For Honor, mais tu vois, mais en plus, et surtout, il y a quand même des succès, hein, côté un Rainbow Six Siege, ça, c'est un énorme carton pour
Ubisoft. C'est même aujourd'hui un des jeux d'e-sport, c'est un exemple, encore une fois, à la FF14 ou d'autres jeux comme ça, qui sont remontés vraiment de rien et qui sont devenus des gros succès, quoi.
En fait, ils arrivent toujours, en fait, ils s'en sortent quand même malgré tout, parce qu'il y a toujours des succès quelque part. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, dans l'open world, solo et compagnie, ils sont peut-être en remise en question, mais à côté, en fait, il y a des choses qui réussissent. Il y a toujours Just Dance qui est là, qui sort et qui donne.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est. En fait, ils ont les mains tellement partout, ils ont tellement d'œufs dans des paniers, tellement d'œufs dans des paniers différents.
C'est Master of None, quoi. Ils peuvent pas être dans l'excellence dans tous les domaines, ils peuvent être très bons, ils vont monter le niveau de qualité de tout, mais comme ils essayent de tout faire en même temps, ils peuvent pas être ultra méga bons dans un truc. Tu vois, Zelda, ils étaient ultra méga bons dans le world, dans la traversée, l'escalade, les machins, il y a des trucs qui rataient un petit peu. Eux, ils essayent de tout faire en même temps, donc en étant touche à tout, forcément, tu vas être obligé d'être limité.
Bon, c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné quand même beaucoup du sujet, on a fait beaucoup de digressions par rapport à Ubisoft, mais je pense que c'était important parce que, encore une fois, c'est impossible de pas parler de tous ces problèmes et de ces aspects-là, en fait, tout simplement. Et encore une fois, c'est voilà ce que va vivre la saga Far Cry, hein. Aujourd'hui, elle est vraiment, comme on le disait, elle est vraiment rentrée en crise. Il y a eu le Primal, en plus, il y a eu des bad buzz, hein, le fait que le Primal reprenait la même carte que le 4.
Mais
même
ça...
si c'est pas si dérangeant, non. Mais en fait, le problème, c'est quand c'est un élément que les gens apprennent, tu vois, en fait, en communication, c'est pas bon, tu vois.
En fait, c'est dérangeant parce que c'est Ubisoft qui, justement,
ouais, c'est ça, exactement,
est beaucoup critiqué.
Ça donne du grain à moudre.
Si ça avait pas été Ubisoft, il y aurait peut-être eu plus de sagesse, parce que la vérité, c'est que, bah, tant que tu t'en rends pas compte, on s'en fout. Ouais. Tu vois, le jeu vidéo, c'est un peu la base du jeu vidéo. Hein.
C'est pas parce que c'est Ubisoft, c'est justement parce que c'est Ubisoft qu'ils ont fait ça, parce qu'ils sont capables de réutiliser leurs assets et qu'ils ont une capacité à recycler et à utiliser des choses sur lesquelles ils ont travaillé de manière très intelligente. Justement, s'ils sont capables de sortir autant de jeux, bah, il n'y a pas de secret. C'est parce qu'ils réutilisent des trucs à droite et à gauche.
Il faut pas confondre la fainéantise et l'intelligence, non, en fait, en servant d'une astuce, parce qu'il y a énormément de jeux vidéo. Enfin, le jeu vidéo, c'est basé sur ce qu'on appelle les smoke and mirrors, tu vois, beaucoup d'illusions, beaucoup d'économies, de moyens, c'est de l'illusion. Si tu t'en rends pas compte, bah, en fait, il y a pas de problème, on s'en fout. Ça sert à rien de travailler pour rien, tu vois. Mais parce que c'est Ubisoft, c'est devenu un peu plus un bad buzz que ça l'aurait été, je pense, en tout cas, si ça avait été quelqu'un d'autre.
Et puis, quoi qu'il en soit, de toute façon, on l'a dit, la série, quand même, les retours critiques ont été plus compliqués. Voilà, c'est intéressant parce que je trouve que c'est, en fait, ça permet de bien comprendre ce qui s'est passé dans les années 2010. C'est-à-dire qu'au début, ce truc-là, c'était vraiment, c'était le rêve de tout le monde. Vraiment, c'était un truc qui nous faisait rêver et on a kiffé. Hein. Moi, c'est vraiment, j'ai de très bons souvenirs sur Far Cry 3, même si je n'en ai pas eu cette lecture gros cerveau, le truc sur sur la critique du héros. Mais voilà, fin 2010, on est beaucoup plus dans l'overdose et cette série, elle va en être victime et elle va pas forcément. Est-ce qu'elle va arriver à se relever? On le verra sur la génération.
De toute façon, ils vont pas l'abandonner. De toute façon, c'est un truc, c'est voilà, il y aura des jeux Far Cry encore une
même
fois.
Même s'ils peuvent taper dans d'autres trucs qui dorment chez Ubisoft, hein, parce qu'il y a encore d'autres.
Oui, ils peuvent ressortir. Un jour ou l'autre, ils vont peut-être ressortir Prince of Persia, ils peuvent ressortir Splinter Cell. Mais de la licence, c'est pas ce qui manque. Hein.
Mais en FPS, ça reste une licence forte. Tu vois, au moins, tu lèves un sourcil et il faut qu'ils disent c'est un nouveau Far Cry et on a changé, et là les gens diront peut-être que
de toute façon leur communication elle sera sûrement comme ça quand ils ont communiqué autour d'Assassin's Creed Origins, ils ont quand même fait ce qui est relativement rare dans l'industrie, une espèce de mea culpa en disant on vous a entendu, on a pris le temps qu'il faut, on a rajouté un an de développement pour pouvoir vraiment sortir un jeu dont on est fier et on refera pas les mêmes erreurs. Alors ils vont les refaire, mais ils vont recommencer, c'est à dire que il y a cette espèce de,
il y aura un changement progressent. Et puis après ils referont, continueront
non mais
dans le changement.
Ils marchent, ils font un petit pas en arrière et puis ils repartent quand même de l'avant. Donc il y a quand même cette volonté de faire mieux à chaque fois qu'on ressent bien. En tout cas, on n'est pas dans une espèce. Souvent les gens critiquent, on va dire, parce qu'on a l'impression qu'ils pressent le truc. C'est parce qu'ils sortent beaucoup de jeux, mais dans les faits, ils essayent de progresser constamment. Quoi. C'est juste que comme on l'a dit plein de fois, c'est un énorme paquebot, donc il y a une inertie débile. Ce que nous prendrait 15 secondes en disant ah oui bon je vais arrêter.
Il faut changer ça. Il faut changer
bon,
ça
fait 3 fois que je mange de la pizza cette semaine. J'arrête. Eux, ça leur prend 6 ans. Tu vois. Donc c'est comme ça.
Est-ce que je t'ai déjà donné la définition de la folie? Oui, fallait le caser la citation de Vass qui s'applique du coup un petit peu.
Ouais, c'est quoi, ça la citation. C'est quoi justement, moi je me rappelle
c'est
plus
quoi, la citation.
C'est que si tu fais toujours la folie, c'est quand tu fais toujours la même chose et que tu t'attends à un résultat différent.
Et voilà, comme quoi, le discours méta en fait était
il avait
encore
tout prévu,
il avait tout compris.
Il y avait encore, et en fait, il y a un autre auteur caché qui n'a pas encore communiqué,
qui avait écrit,
C'est lui qui avait écrit. Bon, très bien. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir parler d'Ubisoft. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, qui disent que voilà, c'est juste pour cracher dessus. En fait, pas du tout, parce que c'est des gens qui sont super intéressants dans leur façon de faire du jeu vidéo, et surtout pour encore une fois pour comprendre cette industrie et ce qui se passe en fait dans le monde mainstream. Ils sont incontournables, et même Far Cry 3, je pense que c'est vraiment un très bon exemple pour vraiment décortiquer, comprendre à la fois en termes de game design, mais aussi en termes industriels comment.
Et du coup, si on avait bien réfléchi notre organisation d'épisode, peut-être qu'on en aurait parlé plus tôt, je sais pas. Non, parce que je me dis, c'est marrant parce qu'on a parlé de beaucoup d'open world et on arrive un peu maintenant là-dessus.
Bon. Oui, bon, c'est comme ça. Écoutez,
de toute façon,
voilà,
il n'y a pas de plan spécial.
On navigue,
hein,
exactement. Il n'y a pas de grand plan machiavélique, il n'y a pas un grand arc narratif, il n'y a pas un grand fil rouge qui se dénouera à la fin de la saison 5.
Pour justifier l'épisode, il suffit de dire, ils vont annoncer un nouveau Far Cry d'ici quelques semaines. Ah, le 3, là.
C'est que, en plus.
Techniquement, c'est pas impossible.
C'est pas impossible. Ouais. Là, il va y avoir des 3. Donc voilà.
Il va y avoir leur événement.
Pas le 3,
là, où ils vont montrer, c'est quoi? C'est le 2 juin, je crois.
Bah, là, de toute façon, on arrive dans les jours.
C'est
où,
en juillet, je crois, Ubisoft.
Non, oui, c'est le 2 juillet, ouais, je crois, c'est ça. Donc, voilà, on va voir ce qui se passera.
On verra ça. On vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez évidemment faire un tour sur notre Patreon si vous voulez nous soutenir pour fin du game. Je rappelle qu'on prendra aussi des vacances en juillet et en août. Il n'y aura qu'un épisode au lieu de deux. Là, il y aura bien un deuxième épisode en juin. Ne vous inquiétez pas. Enfin, si tout va bien, hein. Encore une fois, ne tombe pas un truc sur le coin. Voilà, c'est vrai que franchement,
on sait jamais.
Et vous savez que j'ai réécouté un épisode de début 2020 où on disait que ça allait être chaud en 2020, mais on ne savait pas à
non,
quel
non,
point ça allait être
pas, ouais.
le bordel.
Désolé.
donc voilà, on sait pas ce qui peut nous tomber sur le coin. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon. On remercie encore une nouvelle fois Sœur d'édition, les bouquins sur d'autres open world, une autre façon de faire l'open world, l'open world Rockstar avec GTA et Red Dead. Encore une fois, j'espère qu'on en parlera dans cette émission. Et puis voilà.
Mais oui, je vais y jouer à un moment donné.
Forcer, voilà. Faites du lobbyisme.
Je vais le faire.
Et puis on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Fin du Game. Salut.
Ciao.